السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله طيب. أما بعد، nous sommes toujours avec les règles du mariage islamique. Nous sommes بإذن عز وجل ce soir 11 Muharram 1429 de l'Hégire, c'est-à-dire 19 janvier 2009. Nous sommes toujours avec les règles du mariage au 15e cours. Au 15e cours, cette fois, nous allons réviser un peu les conditions du mariage. Nous parlions la fois passée des conditions du mariage. Et aujourd'hui, on va terminer les conditions et peut-être rentrer dans les défauts. Dans les défauts du mariage. Donc nous avons dit, que si elle lui faisait comme condition, que pour se marier avec lui, il doit divorcer sa première femme. Si elle lui faisait comme condition qu'il doit divorcer sa première femme, ou bien ne doit pas avoir d'esclaves. Les esclaves, je veux dire par là, ne pas avoir des rapports avec les esclaves. Les esclaves qui sont permises, bien sûr. C'est pas comme on a dit une fois, il m'a encore écrit il y a 2 jours aussi, la personne qui dit est-ce que la femme de ménage c'est un esclave. Je dis, ce n'est pas la femme de ménage. La femme de ménage peut être ma soeur et ta mère. Attention, on parle des esclaves qui viennent du butin. Ensuite, il a dit, et si elle lui fait comme condition qu'il ne prend pas une autre femme. Et si elle lui fait comme condition qu'il ne la fasse pas sortir de la maison ou bien de sa ville ou bien de son pays. Ou bien si elle lui fait comme condition un métal dans la dot, un métal particulier. Elle lui dit je veux que ma dot soit en or ou en argent ou en diamant. Ou bien qu'elle lui fait comme condition une dot chère. Maintenant il a dit. C'est ça le début du dars d'aujourd'hui. فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ. Il a dit, si jamais, après qu'elle ait fait les conditions citées, il ne tient pas son engagement et il fait le contraire. Il a dit, alors elle peut annuler son mariage. Il a dit, sauf dans la première condition. La première, pourquoi? Parce que la première n'est pas valable. C'était quoi la première condition? Elle lui dit, j'accepte de me marier avec toi à condition que tu divorces ta première femme. Non, il a dit, cette condition n'est pas valable en islam. On a donné le délil qu'elle n'avait pas le droit. Le hadith est clair, on l'a cité. Non, le hadith est clair, on l'a cité qu'elle n'avait pas le droit de demander qu'il divorce là. Une de ses femmes, ni la première, ni une de ses femmes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afwan, la tes'alul mar'atu talaqa ukhtiha li takfa'a ma fi safhatiha, pardon, hadith sahih. La femme ne doit pas demander le divorce, il a dit, de sa sœur. La co-épouse, il a appelé une sœur. Pourquoi? Parce que, pour qu'on ne lui fasse pas du mal. Pour que l'autre dise, comme j'aime le bien à moi-même, j'aime aussi le bien à ma sœur. Il a dit, elle ne doit pas demander le divorce de sa sœur pour ne pas renverser son assiette. Renverser son assiette, c'est-à-dire pour que, s'il la divorce, il ne dépense plus sur elle. Voyez. Donc cette condition n'est pas acceptée. Toutes les autres conditions que j'ai citées, je les rappelle très vite, c'est-à-dire que il ne la fasse pas sortir de sa maison, ou bien de son pays, ou bien se marie pas une autre, ou bien elle demande un métal comme dot, ou bien sa dot est chère. Il a dit toutes ces conditions, si jamais il accepte, ensuite, il ne tient pas ses engagements. Il a dit, elle a le droit de l'annulation. Ismaël, écrit numéro 1, si tu es là, si vous m'entendez. Il a dit, alors, dans ce cas, elle a quoi? Elle a le droit d'annuler le mariage. Ensuite, il a dit, وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِهِ فَإِنْ خَالَفَهُ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِسْتْ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتَهُ فَقَدْ يُقَالْ إِنَّ الظَّاهِرَ كَلَمِهِ أَنَّ مُخَالَفَةَ الشَّرْطِ لَيْسَتْ حَرَامًا وَأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ نعم. Il a dit ici, lorsque l'auteur a dit, s'il ne respecte pas, alors elle a l'annulation. Alors elle peut annuler son mariage. Il a dit, lorsque l'auteur a dit, s'il ne respecte pas, c'est comme une preuve que quoi? Que le fait de respecter n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut ne pas respecter. Et que respecter n'est pas obligatoire. Il a dit, et c'est ça le madhab. C'est le rite hambalit. Dans le rite hambalit, même s'il fait avec la femme des conditions avant le mariage, il peut après quoi? Transgresser les conditions et ne pas les respecter. Il a dit, وَلَكِنْ sahih. Mais le plus juste, le vrai, naam, le sahih, أَنَّ الْوَفَى بِهِ wajib, qu'il est obligé de respecter. Naam, on ne voit pas ce qu'a dit le rite hambalit. On respecte tout ce qu'on dit, les rites et les ulamas. Mais on voit où est le dalil. Il a dit ici, naam, le plus juste, inshallah ta'ala, que quoi? Que il est obligé de respecter les conditions qu'il a données. Naam. Il n'a pas dit ici pourquoi, et vous savez sûrement pourquoi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith qu'on a cité la fois passée, naam, il a dit, il a dit, les musulmans doivent respecter leurs conditions. Sauf si c'est une condition qui rend le licite illicite, ou bien l'illicite le rend licite. Sauf cette condition. Et encore plus clair que cela, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari, les musulmans aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna ahaq shurut an tuwfu bihi ma istahlaltum bihi al-furuj. Il a dit, les conditions les plus, si je puis dire, importantes, si je puis dire, les plus valables qu'on doit tenir, c'est quoi? C'est naam, les conditions qui ont été la cause pour vous permettre les parties intimes de la femme. Naam. Maintenant, si en vendant quelque chose, en vendant, tu dois respecter les conditions de la vente. Naam. Comment se fait-il que tu ne respectes pas les conditions qui vont te permettre de t'approcher d'une femme qui est étrangère pour toi, qui n'a le droit de te montrer ni ses cheveux, ni rien, et maintenant tu vas tout faire avec elle. Subhanallah. Comment se fait-il que tu ne dois pas respecter les conditions? Tu respectes les conditions de la vente si tu vends un mouton, et tu ne respectes pas les conditions de la femme, subhanallah, avec laquelle tu vas te permettre des choses qui sont haram, si ce n'était pas le bismillah que tu as dit dans le contrat de mariage. Al-Muhim. On revient ici, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit. Et lorsqu'il a dit ici, فَلَهَا الْفَسْخ جَزَكَ اللَّهُ خَيْرًا إِسْمَعِيلِ. Et lorsque l'écrivain a dit, فَلَهَا الْفَسْخ, c'est-à-dire, elle possède quoi? Elle possède l'annulation. Il a dit, ظاهره على التراخي يعني لا يشترط أن تبادر وتفسخ. Il a dit, apparemment, quand on dit elle a l'annulation, s'il ne respecte pas les conditions, apparemment, yani, elle est libre. Libre, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée d'annuler juste quand il n'a pas respecté. C'est-à-dire, elle a le temps devant elle. Elle peut annuler dans un an. Elle peut réfléchir dans 3 mois, dans 6 mois. Hein, elle est libre. C'est pas, yani, il n'a pas respecté ici, j'annule ici. Elle est libre. Il a dit, ensuite il a donné un exemple, il a dit, مثل ذلك, اشترطت, elle l'a يتزوج عليها فتزوج. Elle a fait comme condition, c'est un exemple, elle a fait comme condition qu'il ne se remarie pas, ou bien qu'il ne prenne pas une co-épouse. Ensuite, il a pris une co-épouse. Il a dit, d'après ce que dit ici l'écrivain, فلها, elle peut annuler. Et n'a pas dit, elle annule systématiquement. Elle est juste après qu'il ait pris lui la deuxième épouse. Naam. Lakin, il a oujid amin amin dans le rédan, il n'y a pas de choix. Donc, tarakhi, renoncer, se désister. Renoncer, se désister. Ismaël, tarakhi, ce n'est pas renoncer, se désister. Naam. Tarakhi, c'est-à-dire, pas de suite. Naam, je fais une chose, fawran, ça veut dire de suite, et tarahi, après. Ça veut dire je suis libre de ne pas la faire tout de suite. C'est comme le hajj. Le hajj. Les savants se sont en divergé. Est-ce que le hajj, on doit le faire de suite, ou bien tarahi, ala tarahi, ou bien on le fait dans 5 ans, dans 10 ans, c'est-à-dire j'ai les moyens, je ne vais pas au hajj maintenant. Ça s'appelle tarahi, je le fais après. La même chose ici, pour la femme. Est-ce que elle doit systématiquement, obligatoirement, après que il a épousé la deuxième, elle doit rompre et annuler le contrat, ou bien elle a le droit du terahi, c'est-à-dire de laisser après. Le plus juste, c'est que de ne pas annuler vite. Non, elle a le droit de penser, de faire istikhara, de réfléchir, etc. Comme elle a le droit de quoi aussi? Elle a le droit, non, de ne pas annuler. Elle a le droit de ne pas annuler. فَإِنْ وُجِدَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى فَإِنْ وِسْقُطْ حَقْوَى. Maintenant, une femme a fait comme condition à son mari, dans le contrat de mariage, qu'il ne se remarie pas. Et une année après. Maintenant, donc, elle a le droit d'annuler le mariage. Maintenant, si elle n'annule pas, elle ne veut pas annuler, est-ce qu'on doit l'obliger à la... est-ce qu'elle annule? On ne l'oblige pas. Ça veut dire qu'elle s'est désistée et elle s'est rétractée de son droit. Elle ne veut pas. Non, elle a réfléchi, elle dit, je préfère avoir une co-épouse que de vivre seule. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de chance de me marier. Peut-être que mon mari, je l'aime beaucoup. Même avec une autre, je l'accepte. Ou bien il est bien aisé, il a les moyens. Je préfère vivre avec lui, il ne me manque rien. Ou bien il a le dîn. Peur d'avoir de tomber sur un autre qui n'a pas le dîn, ça ne fait rien, je l'accepte. Et comme ça, elle a le droit donc de consentir et de ne pas annuler. Comment qu'on connaît son consentement? Ou bien elle parle, ou bien avec des gestes. En parlant, c'est-à-dire, je veux dire avec des gestes, c'est-à-dire d'après son état, on voit son état. Quant à parler, c'est très explicite, c'est très explicite. Non, ce qu'elle dit par exemple, je sais maintenant que tu t'es remarié et je te dis que j'ai accepté, j'accepte. Soit c'est lui qui lui dit je me suis remarié, soit c'est elle qui va avoir la nouvelle, la mauvaise nouvelle, elle va la voir, car de notre temps c'est vraiment très difficile de cacher qu'on s'est remarié. C'est pour ça qu'ils disent il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher le mariage, le divorce et la mort. 3 choses, on ne peut pas les cacher. Il faut qu'ils arrivent à l'oreille des gens. Surtout la co-épouse, il faut que son information vienne à l'oreille de la première, même si c'est après 10 ans ou 15 ans. Et maintenant, avec tous les moyens qu'il y a, c'est sûr que le lendemain, elle le saura. Allahu ta'ala alam. Bon, maintenant, elle a su qu'il s'est marié et qu'il a qu'il a transgressé la condition et qu'il n'a pas tenu sa promesse. Elle est libre. Ou bien elle annule, ou bien elle consent. Sans consentement. Ou bien elle dit, j'ai accepté, nam, ana raziyatun bima khalaftafi. Je suis consentante, je consens ce que tu as transgressé. Wa amma bil fi'l bi an tastaqir. Quant à son consentement par acte, hein, c'est le fait que quoi? C'est le fait que elle sait maintenant et elle est toujours avec lui. Naam, des fois, quand même elle n'a pas yani, l'audace, la fierté, m'empêche de lui dire j'ai accepté. Donc, sa fierté lui empêche de lui dire j'ai accepté que tu t'es remarié, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, elle est toujours avec lui, elle lui donne à manger, elle lui donne ses droits, etc. Donc c'est une preuve que elle a consenti. وإذا قلنا لها الفسخ فالصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم لشرط لا اختلاف لها فيه وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به فلا حاجة للحاكم لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف عفوا il a dit et maintenant qu'on a dit que puisque il s'est remarié et que elle a le droit d'annuler et puisque elle veut pas consentir. Donc il a dit, si elle veut annuler, elle n'a pas besoin du juge, ni du tribunal. Elle dit seulement, j'ai annulé mon mariage avec toi. Regardez combien c'est facile pour celle qui a mis la condition. Subhanallah al-Azim. Tandis que l'autre, elle doit aller chez le juge, les rendez-vous, les ceci, les cela. Subhanallah al-Azim, combien c'est difficile. Il a dit, cher, parce que ici, il n'y a rien qui nous pousse à aller au tribunal. On va au tribunal chez le juge quand il y a quoi? Mésentente. Mais ici, la chose est très claire. Je t'avais mis comme condition que tu ne te remaries pas. Et tu t'es remarié et ça veut dire que j'ai le droit d'annuler mon mariage. Je t'apprends alors que mon mariage est nul. Que mon mariage est nul. طيب, مسألتون. بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج. وهذا يقع كثيرا فهذا الشرط صحيح لكن إذا تزوجها وأسقطت هذا الشرط فيسقط لأن الحق لها عفوا il a dit certains gens de certaines personnes font comme condition au mari qu'il ne voilà on vous donne notre fille à condition que vous ne voyagez pas avec elle hors de ce pays. Je vous donne ma fille à condition que vous viviez avec elle en France. Que vous n'alliez pas dans un autre pays. Il a dit ça, ça existe beaucoup dans les conditions. Je vous donne ma fille à condition que vous restiez avec elle en Algérie. Je suis moi en Algérie sans père. Je voudrais que ma fille ne soit pas loin de moi. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit si elle accepte. J'ai le droit. J'aime ma fille moi aussi. Pourquoi elle va aller dans un autre pays? Non, donc, surtout s'il veut la prendre par exemple dans un pays de Kofar, lui dit non, je te donne ma fille à condition que vous viviez en Algérie. Je ne veux pas être difficile et te dire à condition que vous viviez dans la même ville où je vis. Je peux faire aussi cette condition, mais ça ne fait rien, je ne suis pas difficile. Tu ne vas pas trouver peut-être de maison là où je vis moi. Mais à condition au moins que vous viviez en Algérie. D'ailleurs, il a dit, cette condition est valable bien sûr. Lekin. إذا تزوجها وأسقط هذا الشرط فيسقط وأسقطت عفوا mais maintenant il s'est marié avec elle et on lui a mis comme condition qu'il ne devait pas quitter le pays et maintenant après qu'il s'est marié avec elle il lui a demandé qu'elle se désiste de cette condition et elle a accepté elle a dit d'accord je me désiste de cette condition. C'est-à-dire que tu peux voyager avec moi dans un autre pays. Est-ce qu'elle a raison? Il a dit, elle a raison. C'est-à-dire que le fait de se rétracter d'une condition, si c'est elle qui le fait, sans contrainte, c'est accepté. Attention,
Il a dit,
قال صلى الله عليه وسلم الرجال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. البخاري ومسلم. Il a dit, et ici, puisqu'elle a consenti, et elle lui a dit, ce n'est plus un problème que tu voyages avec moi, que tu me fasses sortir de mon pays. Il a dit, elle a cette chose, car ça revient à elle. Il a dit, et le père n'a pas le droit de dire, attention, moi j'avais fait comme condition que vous ne sortiez pas ma fille de la ville, ou là, du pays, pardon, car j'ai peur de la fitna, etc., dans un autre pays. Il n'a plus le droit de dire cela. Pourquoi? Car maintenant, en se mariant, ce n'est plus son père qui la commande, mais son mari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. L'homme est responsable, l'époux est responsable dans sa famille. Et, wa mas'oul an ra'iyatihi. Non, il y a quelque chose qui est ra'i. Ra'i, je ne sais pas comment on dit en français. L'époux est, c'est-à-dire c'est lui qui dépense et sera dans sa famille, et il est responsable dans sa famille. Donc, qui est responsable? C'est l'époux ou là, c'est le père? C'est l'époux. Naam. C'est pour ça que si jamais l'époux dit une chose et le père dit le contraire, naam, l'époux dit à sa femme, va dans telle chose, va m'acheter telle chose, naam. Et le père dit le contraire. Elle doit suivre qui? Elle doit suivre qui? Son père. Son père, elle le suivait quand elle vivait avec lui. Maintenant, elle doit suivre son mari. Peu, elle fait les deux. Mais si ça se contredit, et elle n'a le droit que de choisir entre ce qu'a demandé son père et ce qu'a demandé son mari, elle doit choisir ce qu'a demandé son mari. Et ce n'est pas une désobéissance au père, car c'est l'islam qui a dit cela. Ce n'est pas elle. C'est l'islam qui a demandé cela. Donc, résumé, si Naam, on fait à une femme une condition, ensuite elle, elle se désiste de sa condition, le père n'a rien à voir dans ce désistement. Elle est libre, car c'est elle qui s'est mariée et ce n'est pas son père qui s'est marié. Naam. وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ فَفَعَلَ وَلَا مَهْرَ بَطَلَ النِّكَحَانِ. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. On est toujours dans les conditions. Mais maintenant, on va, on va parler d'un mariage un peu spécial. Hein, qui existe, qui a existé et existera toujours. C'est un mariage un peu spécial. Il faut bien connaître quel est son jugement en islam. Tayyib. Que disent-ils ici? هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. هذا, il a dit, ce mariage qu'on va citer, naam, cette condition qu'on va citer, est une des conditions qui ne sont pas acceptées. Comment cela? Naam. على يقول أزوجك يعني أزوجه وليته على أن أزوجها الآخر الآخر وليته ففعل ولا مهر ولا مهر بينهما. نعم. قوله على نشتري الزوج الآخر. Un homme ici. Un homme, comment ça se passe? Quelqu'un veut se marier avec une femme. Non? Tuteur, donnez-moi, par exemple, votre fille. Ou bien votre sœur. Non? Ou bien donnez-moi votre tante paternelle. Ou bien votre grand-mère. Non? On a dit tante paternelle, pourquoi? Et grand-mère, grand-mère paternelle aussi. Pourquoi? Car on a montré, vous connaissez la règle, inshallah ta'ala, qu'un homme ne peut pas être tuteur d'une femme si entre la femme et lui, il y a une autre femme. Non. Il ne peut pas être tuteur de la tante maternelle, khala, khalati, ni tuteur de jaddati, la mère de ma mère. Parce que entre moi et ma jadda, ma grand-mère, il y a ma mère. Donc, je peux être tuteur de qui? De ma tante paternelle. Et de ma tante et de ma grand-mère paternelle. C'est tout. Maintenant, un homme dit à un autre, donnez-moi votre fille pour mariage. Naam, donnez-moi votre fille pour mariage. Et l'autre lui dit, d'accord, je te donne ma fille comme mariage à condition que tu me donnes toi ta fille comme mariage, ou bien ta soeur, ou bien ta tante, et comme ça. Ça s'appelle, nam, nikah shirar. Shirar, nam. Donc, deux hommes veulent se marier, chacun demande à l'autre celle qui est sous sa main, ça peut être sa fille, ça peut être sa soeur, ça peut être sa tante paternelle, et à condition que quoi? Que l'autre lui donne aussi la fille qu'il a sous la main. La fille qu'il a sous la tutelle. Nam. Et bien sûr, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. Nam. Ça veut dire, tu me donnes la fille, je te donne la fille, c'est tout. Il n'y a pas de dot entre nous. Au lieu que je te donne une dot, je t'ai donné ma fille. Et toi, au lieu que tu me donnes de la dot, tu m'as donné ta sœur. Donc, c'est ça, inshallah ta'ala, la dot. Ce mariage s'appelle Ashirar. Zawaj Ashirar. Et en islam, c'est un mariage nul et non avenu. Cette condition n'est pas acceptée. Cette condition n'est pas acceptée. Quel est le délil? Le délil, c'est par les textes et par le raisonnement aussi. On va commencer par le texte qui est Sahihain, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, d'après le hadith de Ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an nikah al-shirar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage du shirar. Ça s'appelle comme ça, shirar. Il a interdit le mariage du shirar. Wa fussira shirar. Et c'est quoi le shira? Il a été expliqué que la personne donne la personne qui est sous sa main à une autre personne, à condition que l'autre personne lui donne la personne qui est sous sa main sans que les deux ne donnent de dot. Naam, sans que les deux ne donnent de dot. Donc ça, le hadith est clair. Le hadith est clair que ce n'est pas accepté. Tandis que par raisonnement, on va donner trois délits qui prouvent que ce mariage n'est pas accepté. Premier délit. أولا أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى. فهل هذا ابتغى بماله أو ابتغى بفرج موليته؟ طيب. Dans ce mariage qu'on vient de citer, Chacun des deux hommes a mis comme dot. Où est la dot ici? Il a mis les parties intimes de l'autre. Naam. C'est-à-dire, il va lui donner l'autre. Il va lui donner sa fille et l'autre, il va lui donner sa sœur. Donc, au lieu que tu me donnes la dot et que je te donne la dot, tu me donnes la fille, je te donne ma fille et tu me donnes ta sœur. Tu m'as donné quoi en fin de compte? C'est-à-dire, tu m'as donné elle, c'est-à-dire, bien sûr, ses parties intimes. Naam. Il a dit ici, alors que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, regardez le verset qui va venir, Ismaël, j'ai ce verset, c'est tout. Les autres, c'est toi qui les cherches, Inch'Allah Ta'ala, les autres versets. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit. Puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur mahr. Donnez-leur leur mahr. Comme une chose due. Regardez, Allah Ta'ala, dans Surat An-Nisa, a dit que pour jouir de la femme que tu vas épouser, il faut lui donner quoi? Son mahr. Il faut lui donner quoi? Sa dot. Alors qu'ici, tu n'as pas donné à la fille sa dot. Naam. Allah Ta'ala, il a dit, mariez-vous en donnant leur mahr, en donnant la dot. Et là, il s'est marié en donnant quoi? En donnant les parties intimes de la fille qu'il a sous sa main. Naam. Il a donné une fille et une femme et il n'a pas donné d'argent, il n'a pas donné de dot. Il n'a pas donné ni bague, ni chaîne, ni rien. Il a donné une femme à sa place. Deuxièmement, attendez, je lis ce qu'a dit Ismaël, si ce n'est pas trompé, le messager d'Allah a interdit le shira. Lorsqu'un homme donne sa fille en mariage à quelqu'un, à la condition que ce dernier lui donnera sa fille en mariage également et qu'il n'y aura pas de dot ni part ni d'autre. Naam. Ce qu'a dit Ismaïl est vrai, mais Je corrige juste une petite chose pour que ça soit encore plus clair. Ismaël a dit, lorsque quelqu'un donne sa fille, non, moi je dis, pas spécialement sa fille. Il donne celle qu'il a sous la tutelle, que ce soit sa fille, sa sœur, sa grand-mère, sa tante paternelle, et comme ça. Non, peut-être certains vont dire c'est seulement la fille. S'il donne sa sœur, ça ne fait rien. Non, toute la personne qui est sous sa tutelle, il la donne à condition que l'autre lui donne l'autre personne qui est aussi sous sa tutelle. Et l'autre personne peut ne pas être une fille aussi. Moi, j'ai sous ma tutelle ma fille, mais l'autre personne, il va me donner sa sœur. Il n'a pas de fille qui est sous sa tutelle. Lui, il va me donner sa grand-mère. Non. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il me donne celle qui est sous sa tutelle. Et il n'y a pas de dot. Ça, c'est haram. On a cité maintenant, premièrement, par raisonnement. Deuxièmement, par raisonnement. أنه في هذه الحال تتمنفعة الصداق إلى غير المرأة فعادت إلى الولي والله تعالى ويقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة طيب أي عطية فأضف الصداق إليهن وأما وأمر بإعطائهن إياه نحلة وهذا ما أعطينا هذه المسكينة صداق deuxièmement qui prouve que ce mariage n'est pas vrai que cette condition n'est pas acceptée. Non. Ici, quand le premier homme a donné sa fille et l'autre lui a donné sa sœur et ils n'ont pas donné de dot. Non. Qui a gagné? Qui a gagné? C'est l'homme qui s'est marié qui a gagné et le deuxième homme qui s'est marié qui a gagné. Mais la fille du premier et la sœur de l'autre, quand elles gagnaient, elles n'ont rien gagné. Où est la dot? Naham, où est la dot? Elles n'ont reçu aucun sou. Donc, c'est le premier homme, masha'Allah, il a gagné une femme. Il a gagné la fille de l'autre. Et l'autre, il a gagné la sœur de l'autre. Et la sœur de l'autre et la fille de l'autre n'ont rien gagné. Elles n'ont pas eu leur dot. Elle dit deuxièmement, Allah Ta'ala dit dans le Coran, et donnez aux épouses leur mahr. Donnez aux épouses leur mahr. Toi, tu n'as pas donné de mahr, tu n'as pas donné de dot. Et l'autre n'a pas donné de dot aussi. Naam. Troisièmement, ce qui montre aussi que ce mariage est interdit. Troisièmement, Afoun. Naam. Je disais troisièmement, ce qui montre que ce mariage est interdit. Anna hadha fihi ghaliban mukhalafat. Anna hadha fihi mukhalafa. Limadha? Mukhalafat al-amana. Wa fihi mujanabatuha. Fa'inna l'insan idha kana yahsulu lahu farju mar'atin bifarji mouliyatihi. Rafael al-Muqtada al-Amana. Il a dit, et troisièmement, un mariage pareil, Nam, c'est quoi? C'est, en général, Nam, on ne donne pas d'importance à l'Amana. L'Amana, c'est quoi? C'est le dépôt. Allah Ta'ala ne t'a-t-il pas donné ta fille comme Amana chez toi pour que tu la maries? Et n'a-t-il pas donné à l'autre sa sœur comme dépôt chez lui, Amana? Pour qu'il la marie, Naam, il a dit, mais si maintenant la personne sait que il va avoir une autre femme, Naam, il va avoir une autre femme, en donnant lui sa fille ou sa sœur, lui, en donnant sa fille et sa sœur, il va avoir une autre femme, ici il a dit un autre mot que je ne veux pas citer, Naam, il a dit, donc dans ce cas, il ne donne plus d'importance à la amana qu'il a entre ses mains. La amana, c'est quoi? La amana, c'est de marier sa fille et l'autre, c'est de marier sa sœur avec quelqu'un qui remplit les conditions. Mais maintenant, puisque celui-là, Naam, il veut épouser une femme, il ne cherche plus cette condition. L'essentiel, pour que l'autre me marie avec sa sœur, je lui donne ma fille. Il m'a fait cette condition. Donc maintenant, moi, je lui donne ma fille, je m'en fous. Même si cet homme ne remplit pas les conditions, même s'il ne lui donne pas la dot, même s'il n'est pas religieux, je m'en fous. L'essentiel, c'est quoi? Mon but ici, mon but, ce n'est pas les intérêts de ma fille ou bien de ma sœur. Mon but, c'est la femme qu'il va me donner en revanche. Il va me marier avec une autre femme en revanche. C'est ça ce qui m'intéresse. Naam. Alors, il a dit, Dans ce cas ici, les deux hommes ne cherchent que les choses qui assouvissent leur passion. Ils cherchent les choses qui assouvissent leur passion. Donc, c'est pour ça que si jamais quelqu'un de pieux va venir et dire à la personne, marie-moi ta fille, hein, marie-moi ta fille, et je donnerai la dot. Il a dit, mais l'autre qui cherche le mariage n'a pas de fille. Alors, celui-là ne veut pas la marier, le marier. Naam. Si ce mariage était valable, si cette condition était valable. Naam. Quand quelqu'un, pour que vous compreniez mieux, quand quelqu'un vient demander ma fille au mariage, il me dit, voilà, je suis un fils de famille, je suis religieux, mashallah, j'ai de l'argent, j'ai tout, donnez-moi votre fille. Naam. Moi, je dis, puisque c'est permis de lui poser la condition. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, et vous, avez-vous une sœur? Mariez-moi votre sœur, je vous donne ma fille. Naam. Il va me dire, j'ai pas de sœur, je n'ai personne. Je lui dis, alors, allez chercher dans une autre famille. Moi, je ne vous marie pas. Donc, alhamdoulilah, que quoi? Que cette condition n'est pas valable. Sinon, beaucoup de filles ne seraient pas mariées à cause de leur père. Qui voudrait quoi? Qui voudrait chercher ce qui assouvit leur passion et ne pas l'intérêt de leur fille. Naam. Et il a dit, et si au contraire, un homme pervers qui ne fait pas par exemple la salat et lui dit, donnez-moi votre fille, je vous donne votre sœur. Alors l'autre va accepter. Et il va dire, l'essentiel c'est que je vais me trouver avec une deuxième femme, mashallah, la sœur de cette personne. C'est ça l'essentiel. Quant à ma fille, moi, je m'en fous, je la lui donne. Même s'il ne fait pas la prière, même s'il est loin du dîn, même s'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Je lui donne ma fille, ça ne fait rien. L'essentiel, il va me donner sa sœur. Naam. Ensuite, il a dit, وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا. On était en train de parler de quoi? Des conditions. Il lui dit, je te donne ma fille, tu me donnes ta sœur. À condition de quoi? À condition de ne pas y avoir de dot. Mais qu'en est-il? Si il me demande ma fille, je lui dis, à condition que tu me donnes ta sœur. Et on donne la dot. Et moi, je donne la dot à ta sœur. Et toi, tu donnes la dot à ma fille. Mais c'est toujours à condition. C'est-à-dire, je ne te donne pas ma fille. Sauf si tu me donnes ta fille ou ta sœur, mais nous, inshallah ta'ala, on va donner la dot comme ça, on ne va pas rentrer dans l'interdiction du hadith. Alors, qu'en est-il? Car vous savez, vous avez lu le hadith a dit que c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne donnait pas de dot. Et maintenant, s'il donnait la dot, est-ce que ça ne deviendrait plus interdit? Est-ce que ça serait licite? On va voir, inshallah ta'ala. Ici, il a dit, naam. مفهومه أنه إن كان بينهما ما صح العقد. Il a dit d'après le hadith ici, si on prend avec le sens contraire, donc d'après le sens contraire du hadith, مفهوم, ça s'appelle aussi dalil khitab, donc il est permis de se marier, même en faisant la condition, mais il est permis puisqu'il y a la dot. On va donner la dot. نعم. فعلم منه انه اذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح. Il a dit pourquoi? Car le mariage qui est interdit, qui s'appelle le shirar, il a été interdit à cause de quoi? À cause de les deux femmes vont être échangées à la place de la dot. Au lieu de donner la dot, il lui dit, je te donne ma fille. Et comme ça, il a dit, mais maintenant puisqu'il y a la dot entre elles, pourquoi ce serait interdit? Et ils ont dit, en arabe, le shirar. Shirar, ça veut dire vide. Vide et inoccupé. Inoccupé. Comme ça, on dit en arabe, dans une société, il y a un poste shirar. Il y a un poste qui est vide pour quelqu'un qui veut postuler, par exemple. On dit, il y a deux postes shirar, shiraran, vide. Pourquoi ici ce mariage a été appelé shirar, shirar? Car la femme ne reçoit pas la dot. Le coffret où elle devait mettre les bijoux de la dot ou bien l'argent de la dot est vide. C'est pour ça qu'il s'appelle shirar. Ils ont dit, et puisque Allah Ta'ala a dit que de donner leur mahr, il a dit, alhamdoulilah, ces deux personnes ont donné, chacun a donné le mahr, ils ont dit donc le mariage est valable. Ça c'est quoi? Le premier avis. Vous allez écouter avec moi, il y a trois avis. Non. Le premier avis dit, si les deux, si les deux personnes, les deux hommes, donnent la dot aux deux femmes, la condition est acceptée. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est la dot. Le hadith a dit, il n'y a pas de dot. Et nous, on a donné la dot. Ça, c'est le premier avis. Pour que vous compreniez le premier avis, pour que vous compreniez le premier avis, non? Khalina, je commence par l'interdit, ensuite je donne les trois avis. L'interdit, c'est quoi? Où il n'y a pas de divergence. Je dis à quelqu'un, je te donne ma fille, ou bien ma soeur, ou bien ma tante, etc., à condition que tu me donnes, toi, celle qui est sous ta tutelle. Et il n'y a pas de dot. Ça, c'est sans divergence, c'est un mariage interdit et la condition est nulle. Maintenant, on va passer à autre chose. Je te donne ma fille, condition, que tu me donnes ta soeur ou bien ta tante ou bien ta fille, et on donne la dot. Et dis-moi combien qu'elle veut ta soeur comme dot, et moi je te dirai combien veut ma fille comme dot, et chacun donne la dot. On parle maintenant de ce deuxième cas avec la dot. Avec la dot, il y a trois avis. Le premier avis a dit, c'est accepté. C'est un mariage valide. Pourquoi? Parce que le hadith a dit qu'il ne donnait pas de dot. Et ceux-là ont donné de dot, ont donné la dot. Deuxième avis. Le deuxième avis a dit, même si tu donnes la dot, le mariage n'est pas accepté. Même si tu donnes la dot. Pourquoi? Parce que tu as fait la condition que tu ne donnais pas ta fille s'il ne te donnait pas lui aussi sa fille ou bien sa sœur. Maintenant, pour avoir fait la condition, même si tu donnes la dot, ce n'est pas accepté. Et ceux-là se sont basés sur quoi? Se sont basés sur un hadith où Cheikh Al-Albani a dit Hassan. C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça s'est passé au temps de notre oncle. C'est qui c'est notre oncle? Vous connaissez notre oncle? On a un oncle. Vous connaissez votre oncle? Si vous ne connaissez pas, je vais vous dire qui c'est votre oncle. Notre oncle, c'est qui? C'est Muawiyah. Muawiyah, radiyallahu ta'ala, anhu et anhuma. Nam, que les chiites détestent. Muawiyah, et aujourd'hui, nous sommes le 10. Nous sommes le 11. Ici au Koweït, nous sommes le 10. Aujourd'hui, au Koweït, ici, il se passe des choses horribles. En ce qui concerne Muawiyah, on l'insulte et on insulte Aïcha, etc. etc. Allah yikfina sharrahum wa Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les châtie dans cette vie avant l'au-delà. Al-Muhim. Maintenant, le deuxième avis, c'est l'avis de certains Hanbalites. Ils ont dit, ce mariage n'est pas accepté. Même s'il donne la dot. Car, au temps de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, il a entendu que deux hommes ont fait cette condition et ils ont donné la dot. Il leur a annulé leur mariage. Il leur a annulé leur mariage. Et il a dit, c'est ça le mariage du shirar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit, c'est ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسماعيل فيه صوت. إسماعيل est-ce que vous m'entendez? نعم. Donc d'autres بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. D'autres علماء entre autres Cheikh Ibn Uthaymin الله يرحمه a dit que ce mariage pour moi c'est-à-dire cette condition est valable. À condition que ce mariage remplisse trois conditions. Quelle est la première condition? Al-kafa'a. L'homme qui est venu demander cette femme remplit lui-même les conditions. Des deux côtés. De ce côté et le deuxième homme de l'autre côté. Deuxième condition. Mahrul mitl. La dot est une dot acceptable. C'est comme la dot de la plupart des jeunes filles de notre époque. Troisièmement, le consentement des deux femmes, de part et d'autre, des deux femmes ont consenti. Il a dit, فَإِنَّ هَذَا لَبَأْسَ بِهِ. Il a dit ça, ce n'est pas interdit qu'ils se marient. Pourquoi ? لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَكَ ظُلْمٌ لِلزَّوْجَاتِ. Il a dit, est-ce que ici on a fait du tort aux deux femmes ? Est-ce qu'on a fait du tort aux deux femmes ? فَقَدْ أُعْطَيْنَا الْمَهْرَ كَامِلًا. Premièrement, on leur a donné la dot. Et on leur a donné une dot complète. Complète. C'est pas un peu de la dot. On a donné toute la dot. Deuxièmement, لَيْسَ هُنَكَ إِكْرَهْ. Deuxièmement, personne n'a forcé les deux femmes. نعم بالغاية ما هناك إن كل واحد منهما قد رغب بمثل الآخر فشرط عين زوجه. Il a dit, est-ce que quand l'autre est venu lui dire, donnez-moi votre fille, et le deuxième lui a dit, je te donne ma fille à condition que tu me donnes ta sœur par exemple, à condition que tu me donnes ta sœur par exemple. Ensuite, ils ont mis la dot. Est-ce que ici, quand il lui a dit à condition que tu me donnes ta sœur, est-ce que l'autre, il était obligé de lui donner sa sœur? Il n'était pas obligé. Donc, il n'y a pas de contrainte, ni de la part du tuteur, ni de la part de la fille. La fille, on lui a demandé, elle a accepté. Naam. Il a dit, لا سيما في مثل وقتنا هذا حيث صار الناس يعوذ بالله لا يمكن يزوج بناتهم ويتحجرهن. Il a dit, donc, ceci est valable, il a dit, surtout dans notre époque, où il a dit, Beaucoup de pères et de tuteurs ne veulent pas marier leurs filles, sauf si on leur marie avec d'autres. Il a dit maintenant, si on dit que ce n'est pas possible, alors beaucoup de filles ne vont pas se marier. Il a dit, mais à condition que ça remplisse les trois conditions. Quelles sont les conditions? Premièrement, il faut qu'il y ait la dot. Deuxièmement, il faut que les deux femmes soient consentantes. Troisièmement, il faut que la dot soit acceptable. Et quatrièmement, il faut quoi? Il faut que les deux époux remplissent les conditions. Naam, il faut que les deux hommes ici remplissent les conditions. Donc, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Il a dit, mais attention. لا ينبغي فتح الباب للعامة. لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من الله إن كان يهوي أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كان يتزوج فيجبرها. فسد الباب في مثل الوقت أولى. Il a dit, mais attention, on ne doit pas ouvrir cette porte aux masses et à tous les gens. Sinon, maintenant, si on va dire que ce mariage est permis, on va dire comme ça à tout le monde, même si c'est avec les conditions, il va dire, alors beaucoup de gens ne vont plus marier leur fille et dire, moi je ne marie ma fille que si je trouve quelqu'un qui lui il me donne sa fille. Non, sinon je ne la marie pas. Non, il a dit, c'est pour ça que on ne doit pas ouvrir cette porte. Quoique, vous avez remarqué, les ulamas ont divergé. Et vous avez vu que certains ont dit, même s'ils donnent la dot, ce n'est pas accepté. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est aussi l'avis de Cheikh Fawzan, rahimahullah. Il dit, même s'ils donnent la dot, le fait déjà de faire comme condition l'échange, je te donne, si tu me donnes, ils ont dit, même avec la dot, ce n'est pas permis. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, comme vous savez, il est toujours au milieu. Il a choisi que cette condition est acceptée à condition que cette condition remplisse aussi trois autres conditions que je viens de citer. Tayyib, on passe à autre chose. فَإِنْ سُمِّيَا لَهُمَا مَهْرٌ صَحَّ وَإِنْ تَزُوَجَ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَا تَحَلَّ لَهَا لِلْأَوَّلِ طَلَّقَهَا أَوْ نَوَاهُ بِلَا شَرْطِ أَوْ قَالَ زُوِّجْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أو إن راضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. Maintenant il a dit, non. S'il lui fait comme condition, أنه وإن تزوجها بشرط أنه ما تحلل الأول طلقها. Maintenant il a dit, ici. Il lui dit, je te marie ma fille, ou là, ma soeur, à condition que quoi? Que après que tu te maries avec elle, tu la divorces. Vous allez dire, subhanallah, comment quelqu'un dit disent aux prétendants, je te marie avec ma fille à condition que tu la divorces. On va dire ça, c'est pas possible. C'est possible et c'est... Et même ça peut se faire, bon, ça peut se faire, je veux dire, c'est interdit. Mais des gens peuvent faire cela. Quand est-ce? On va donner un exemple. Kamra'atin, mutallaqatin salatan. Une femme a été divorcée 3 fois. Maintenant, vous savez que l'homme, quand il divorce sa femme 3 fois, elle ne peut plus revenir vers lui. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle se marie avec une autre personne. Naam. Car Allah Ta'ala a dit, الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها البقرة 230 الله تعالى dit le divorce c'est 2 fois s'il la divorce la troisième fois elle ne lui est plus licite jusqu'à ce que elle se marie avec une autre personne. Donc ici un homme a divorcé sa femme pour la troisième fois. Et il ne peut plus se marier avec elle. Allah Ta'ala dit, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conforme à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Non. Maintenant, une femme a été divorcée 3 fois. Un homme est venu lui demander sa main. Elle s'est divorcée, elle s'est faite divorcer 3 fois. Non. Un homme est venu lui demander sa main. لكن اشترط أهل الزوجة عليه أنه مات حلال الأول طلقها. Alors, quand il est venu demander sa main, le père, par exemple, de la fille, va dire à ce prétendant, on va te donner notre fille, à condition que, dès que tu te maries avec elle, tu la divorces. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans l'intention? Ils ont dans l'intention pour qu'elle soit valide au premier. Ils veulent la rendre à son premier époux qu'il a divorcé 3 fois. Donc, ils font comme condition à ce nouveau prétendant, ils lui font comme condition, on te donne notre fille, mais à condition que tu la divorces. Non. Maintenant, le prétendant a accepté. Il a dit, j'accepte cette condition. Cette condition est nulle, même si lui, il a accepté. Subhanallah. Même si le nouveau prétendant a accepté cette condition est nulle. Pourquoi? Parce que c'est un mariage où il n'y a pas l'intention. Il n'y a pas l'intention du mariage. Mais il y a l'intention de quoi? Il y a l'intention du mariage avec divorce. Je me marie et je divorce demain, dans une semaine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Innama al-a'malu bin-niyyat. Il a dit, les actions dépendent des intentions. Et pour chaque personne, d'après son intention. Et chaque personne aura d'après son intention. Et c'est quoi l'intention ici du prétendant? Ce n'est pas de rester avec la femme. Il n'y a pas la continuité. Il n'y a pas la continuité. Il n'y a pas l'istimrar. Le mariage, c'est pourquoi on se marie en ayant dans l'intention qu'on va vivre avec cette femme peut-être toute notre vie. Quand je me marie avec une femme, que dois-je avoir dans mon intention? Peut-être je vais vivre avec cette femme 50 ans, peut-être 60 ans. C'est pas. Non. Et je mets toujours comme intention, je vais avoir des enfants avec cette femme. Masha'Allah, je vais agrandir ma famille. Et mes enfants vont se marier, vont donner des enfants, et comme ça. C'est ça, vraiment, les intentions du vrai mariage. Alors que celui-là, il veut se marier avec l'intention qu'il n'y ait pas continuité avec cette femme. C'est juste une semaine ou un mois. Et donc, il n'y aura pas d'enfants. Non, il n'a pas dans l'idée qu'il va y avoir enfants avec elle. C'est sûr que cette nuit-là, où il va se marier pour la nuit ou pour la semaine, je ne sais pas combien il va prendre, c'est sûr qu'il va prendre même des choses pour que la femme ne tombe pas enceinte. Non. Car son but, c'est seulement pour la valider, pour qu'elle revienne au premier, qu'il a divorcé 3 fois. Non. وَإِنَّمَا أَرَادَ جِمَعًا يُحِدْ لُهَا بِإِلِ الْأَوَّلِ. Il a dit, cet homme, Son but, c'était quoi? C'était seulement de faire un rapport avec la femme, pour qu'elle soit valide au premier, qu'elle revienne vers lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la'ana al-muhallila wal-muhallalala. Hadith sahih. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit qui? A maudit celui qui veut valider une femme à son premier mari. Qui sont maudits? Les deux sont maudits. Celui qui va valider, c'est-à-dire se marier pour valider, et le premier mari est aussi maudit. Bien sûr, si quoi? Si c'est lui qui a envoyé cet homme pour se marier. Si c'est lui qui lui a dit, voilà, tu vas faire une mission, je vais même te donner de l'argent, tu vas te marier avec mon ancienne femme une nuit. Et le lendemain, comme ça, moi, tu la divorces, je peux me marier avec elle. Les deux ici sont maudits chez Allah Azza wa Jal. Maudit, éloigné du paradis et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Naam. Hein? Car celui-là, celui qui va se marier, le prétendant, le nouveau, ittakhadha ayatillahi huzwan. Celui-là, il joue avec les versets d'Allah. Les versets qui ont interdit cette chose, et le hadith qui a interdit cette chose, celui-là, il les a pris en jeu. Naam, il n'aura pas donné d'importance. أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون. Maintenant, si celui qui va se marier, le prétendant, naam, ne sait pas, qui est-ce qui sait? C'est seulement le premier mari qui sait. Naam. Et peut-être aussi la famille de la fille, la famille de la femme, qui sait aussi. Et ils sont mis d'accord pour la faire marier. Ensuite, on demande à l'autre de divorcer. Celui-là, bien sûr, le prétendant ici, n'a aucun péché. Pourquoi? Il ne savait pas. Il s'est marié normalement. Il s'est marié à un mariage valide. Naam. Mais maintenant, s'il sait que voilà le but de la famille, voilà pourquoi on va me marier, car on peut le marier, et bien sûr, le lendemain, on lui trouve 1000 excuses, et on le fait divorcer. Surtout, par exemple, si le père de la famille, par exemple, c'est quelqu'un de grand, par exemple, dans l'État. Quelqu'un de grand. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait des problèmes au nouveau marié. Le lendemain, il lui dit, écoute, on a entendu que tu as fait telle et telle chose, et que tu n'es pas quelqu'un de bien, et que tu es un criminel, etc. etc. Et non, il lui dit, tu divorces ou je te rentre en prison. C'est quelqu'un de... je ne sais pas, un général, je ne sais pas qui. Alors, il lui fait peur. Donc, maintenant, il a dit, s'il sait, avant le mariage, il sait que on va le faire divorcer et il accepte, il est mel'oun, il est maudit. Maintenant qu'il sait quelle est l'intention du père de cette fille, alors il ne doit pas accepter le mariage. Quand on lui dit, tu te maries, il dit, non, je ne me marie pas. J'ai pas l'intention de me marier. Non, j'ai pas l'intention. Non. Ou bien votre fille ne remplit pas les conditions. Et comme ça, il ne doit pas se marier. Non. Car, ici, même si on le marie et on l'a fait divorcer le lendemain, son premier mari n'a pas aussi le droit de la reprendre. Quand il connaîtra que on vient de marier son ancienne femme juste pour qu'on la lui rende, la preuve, on a forcé le prétendant à divorcer, alors lui-même, il ne doit pas accepter. Il ne doit pas dire « Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, c'est pas moi qui ai demandé cette chose, ce sont eux qui l'ont marié et l'ont divorcé. Alhamdoulilah, donc je reprends ma femme. » On lui dit « Non, même toi, tu n'as pas le droit de la reprendre. Pourquoi ? Parce que cette personne ne s'est pas mariée avec elle, avec l'intention de se marier. Mais on l'a mariée juste pour qu'il fasse le rapport et il la divorce. Ou bien, lui il veut, ou bien de force. Donc dans ce cas, dans ces deux cas, tu ne peux pas reprendre ta première femme. Car ici le cheikh dit, pour que le premier mari puisse reprendre la femme qu'il a divorcée trois fois, il faudrait qu'il y ait un mariage valide. Et ce mariage ici n'est pas valide, le mariage qu'on vient de citer. Et est-ce que Wahad Yusama Zina, et si jamais il reprend sa femme, le premier reprend sa femme, est-ce qu'on appelle ça Zina ou pas? Il a dit, Cheikh Lahmou, ce n'est pas Zina à 100%, mais ça contient beaucoup d'ambiguïté. Ensuite, il dit, وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فهذا الأثر يدل على أنه زنا لأن الرجم لا يكون إلا للزاني. Il a dit maintenant une seconde inshallah ta'ala. نعم نعم il a dit عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه a dit si jamais vous me faites venir quelqu'un, Nam, qui s'est marié, ce genre de mariage, c'est-à-dire juste pour valider la femme, c'est-à-dire juste il fait un rapport et la divorce, il a dit, alors je lapiderai la personne qui a fait ce mariage, c'est-à-dire le nouveau marié, et je lapiderai aussi son ancien mari. Je lapiderai les deux. Je lapiderai celui qui s'est marié ce mariage, et son ancien mari qui veut la reprendre. Entre parenthèses, bien sûr, si quoi? S'il savait lui aussi. S'il savait, s'il a accepté cette chose. Non. Ou bien, si c'est lui qui a poussé cet homme à se marier. Il a dit, je lapide les deux. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo a dit, donc, c'est une preuve que c'est Zina. Si c'était pas Zina, comment se fait-il que Omar Ibn Khattab lapide deux personnes? Il les lapide en les jetant avec des cailloux jusqu'à la mort. C'est impossible. Ça ne se fait que si quelqu'un a fait la Zina et qu'il était déjà marié. Donc il a dit, c'est une preuve que quoi? Que ces deux-là ont fait la zina, sont dans la zina. Naam. Ou nawah bila shart. Ay nawah zawju thani, innahu ma tahallala lil awwal, talaqa. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ce genre de mariage. Vous savez comment il a appelé? Il a appelé tays al musta'ar, la brebis musta'ar, la brebis prêtée. Il a appelé la brebis prêtée. Le hadith est sahih. C'est quoi la... Pourquoi il l'a comparé à la brebis prêtée? Prêtée ou bien empruntée, c'est mieux. La brebis empruntée. C'est comme si, vous savez, des fois, quelqu'un, par exemple, qui est... Non. Quelqu'un qui, par exemple, il n'a que... Par exemple... il n'a que des brebis. Quelqu'un n'a que des brebis. C'est-à-dire des femelles. Et il voudrait quoi? Il voudrait que ces brebis, par exemple, donnent d'autres moutons, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça se fait, cette chose se fait. Il peut prêter, ou bien emprunter. Attendez, prêter, emprunter. Il emprunte. Il peut emprunter quoi? Un mouton. Un mouton chez son voisin. Son voisin, il lui dit, tu me prêtes un mouton. Pendant une nuit, par exemple, ou bien deux nuits, je te le rends. Juste pour que quoi? Pour que ce mouton, avec les brebis qu'il a, yani, on ne sait jamais, ce mouton, il y a une ou deux brebis, yani, qui il va s'accoupler avec elles, et comme ça, elles vont donner des moutons. Parce que les brebis elles-mêmes ne peuvent pas donner de moutons. Il faut qu'il y ait le mâle. Alors quelqu'un va demander quoi? Va demander à son voisin de lui prêter un mâle. Une nuit ou là une semaine, et comme ça. Il a dit, c'est la même chose. Ici, au lieu d'emprunter un mouton, ils ont emprunté cet homme. Et lui ont dit, tu vas dormir avec cette femme, et demain, inshallah ta'ala, tu vas la divorcer. Non, je vous ai raconté il n'y a pas longtemps, peut-être un mois ou là, quelqu'un m'a raconté une chose véridique d'un homme avec qui on a fait cette chose. Bien sûr, cette chose, on l'a fait avec des milliers d'hommes et des milliers de prétendants. On leur a donné de l'argent, ils ont accepté cette chose. Comme quoi, astaghfirullah de ce que je vais dire, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est comme un enfant. On peut faire des choses et il ne les remarque pas. Non, quand on fait ça, Allah Ta'ala ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Ta'ala va croire que cette personne s'est vraiment mariée et elle a divorcé. Subhanallah al-Azim. À ce point, on peut tromper Allah Ta'ala à ce point. Déjà, vous voyez faire cette chose. C'est pour ça que quiconque fait cette chose, il devient maudit. Car c'est comme s'il a voulu, c'est comme s'il a cru qu'on peut tromper de là. C'est très grave. Que tu crois que tu peux tromper de là, Azza wa Jal. Là, je ne sais pas que tu as fait cette chose juste pour valider la femme. Il ne sait pas Allah Ta'ala. Subhanallah al-Azim. Je vous disais que quelqu'un m'a raconté il y a un mois à peu près que une personne a fait la même chose et que il a accepté de valider une femme et le lendemain, quand il a dormi avec la femme, le lendemain, il lui a demandé. Il lui a dit « On m'a demandé de te divorcer. Que penses-tu » Elle a dit « Non, moi, ça ne m'a plu avec toi. Je ne voudrais pas que tu me divorces. » Et il est resté avec elle. Il est resté avec elle toute sa vie. D'un côté, c'est un malheur. Un malheur pour les, personnes qui... c'est un malheur, mais d'un autre, c'est un bien. C'est un grand bien. C'est un grand bien pour la femme. Comme ça, elle ne va pas revenir à l'autre. Ce sera la zina. Et c'est un grand bien pour l'homme qui devait se marier avec elle aussi. Naam. Comme ça, il ne peut pas se marier avec elle, l'autre, c'est-à-dire le premier, pour qu'il ne rentre pas dans la zina. Naam. Maintenant, « وَمَاذَا لَوْ نَوَتْهُ الزَّوْجَةُ فَوَافَقَتْ عَلَى التَّزَوْجِ بِثَانِي مِنْ أَجْلِ إِنْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ » فَظَاهِرُ كَانَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ. Maintenant, si la femme, Naam, a mis dans son cœur qu'elle se marie avec cette niya, et peut-être que lui, il ne sait pas. Ce n'est pas obligé que l'homme sache. Ça, ce n'est pas obligé que l'homme sache. Maintenant, il est possible que Naam, cette femme s'est fait proposer. Et lui, il ne sait pas que dans sa tête, elle veut juste une nuit ou bien une semaine et elle se débarrassera de lui pour revenir au premier. Et il s'est marié avec elle. Ici, il a dit, certains ont dit que ça ne fait rien. C'est valide. Parce que la femme, puisque le divorce n'est pas dans sa main, elle ne peut pas divorcer. Et on ne sait jamais, elle se marie, ensuite ça lui plaît. Donc ça ne fait rien, même avec cette mauvaise niya, elle peut se remarier. Mais Cheikh l'Arme, Cheikh Ben Outaymin dit, cela n'est pas vrai. Il dit, cela n'est pas vrai. Parce que quoi? Parce que, comme la femme, comme l'homme, s'il a une mauvaise niya, il a fait un péché, la femme aussi. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme en cette chose. La femme aussi, avec cette mauvaise niya de mariage, elle aura des péchés. Mais ce mariage n'est pas accepté. Naam. Ils ont dit pourquoi? Ceux qui ont dit que c'était possible. Ils ont dit car la femme, le mariage n'est pas dans sa main. Ce n'est pas elle qui divorce. Il se marie avec elle. Ensuite, s'il ne veut pas divorcer, il ne divorce pas. Donc à quoi ça sert qu'elle ait une mauvaise niya? Non, ils ont dit donc, ça c'est un délit qu'elle peut se marier avec la mauvaise niya. Mais on a dit que ça, ce n'était pas vrai. Sahih, c'est quoi? On a le premier mari et on a le deuxième mari qui va se marier et on a la mariée et on a son tuteur. Les quatre, tous les quatre doivent avoir une bonne niya. Si l'un des quatre a une mauvaise niya, Naam, il a des péchés pour ce mariage. Et comme vous savez, que la condition n'est pas acceptée. Maintenant, Cheikh Lahmou a dit, et si quelqu'un nous dit, Imra'atu Rifa'a al-Quradi tazawwajat Abdurrahman ibn Zubair, vous connaissez la femme, je vous l'ai raconté une fois, qui était l'épouse de Rifa'a al-Quradi. Ensuite, cet homme l'a divorcée trois fois. Et ensuite, cet homme l'a divorcée trois fois. Et ensuite, elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhuma. Et ensuite, elle est allée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit que, yani, cet homme, ce nouveau mari, qui s'appelle Abdurrahman ibn Zubayr, il ne peut pas m'assouvir. Il ne peut pas m'assouvir dans les rapports intimes. Et, radiallahu ta'ala anha, la pudeur ne l'a pas empêché de prendre comme ça un bout de son djilbab. Elle a pris comme ça un bout de son djilbab et lui a dit, il n'a de ce qu'on l'homme que comme cela. C'est-à-dire juste un peu et cette chose qu'il a, yani, n'est pas comme celle des hommes, yani, qui accomplissent leur femme. Il lui a montré comme ça un bout de son habit, comme quoi yani, la chose de l'homme avec qui je me suis marié yani, n'est pas bien éveillée. Non, je ne veux pas employer un autre mot qui n'est pas bien. Ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce que tu voudrais revenir à ton premier mari? Tu veux dire par là que tu veux revenir à ton premier mari? Elle a dit oui. Il a dit non. Jusqu'à ce qu'il aura goûté de ton miel. Et que toi, tu aies goûté de son miel. Ils ont dit ici, non, donc c'est une preuve que quoi? Que la femme, cette femme, avait dans l'intention de revenir au premier. Ils ont dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit, c'est pas haram. Mais cheikh, qu'est-ce qu'il a répondu là, Ahmou? Il a dit, non. Ce qui paraît ici, c'est quoi? C'est que cette femme, après s'être mariée avec le nouveau, a découvert qu'il ne l'assouvissait pas. Et qu'il n'avait pas gagné vraiment ce qu'ont les hommes. Et que c'était faible chez lui. Non, son membre était faible. Ils ont dit, mais elle ne savait pas cela auparavant. Ils ont dit, c'est pour ça qu'elle s'est mariée un mariage normal. Et après, en découvrant qu'il n'avait pas la chose, elle est allée se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il n'a pas ce qu'ont les hommes. C'est-à-dire que cette femme n'avait pas dans la niya, dans l'intention, je vais marier avec celui-là, même s'il n'a pas cette chose, l'essentiel, il fait un rapport et je reviens à mon premier homme. Non, elle n'avait pas ça. Elle avait la niya de se marier comme toutes les femmes. Mais maintenant, elle a trouvé qu'il n'avait pas. Alors elle a dit, je voudrais revenir au premier. Et le professeur Alisson lui a dit non. Jusqu'à ce que vous fassiez des rapports et que bien sûr, il te divorce. S'il veut, bien sûr. Sinon, tu ne peux pas revenir au premier. Donc, ceux qui se basent sur le délit de cette femme se sont trompés. Car cette femme, si elle avait trouvé son mari normal, elle ne serait pas allée se plaindre. Donc, elle est allée se plaindre après avoir trouvé son mari qui n'était pas normal. Mais elle n'avait pas dans l'intention, avant le mariage, de se marier ou divorcer. Naam. Tayyib. Maintenant, il reste beaucoup de choses à citer. Naam. Surtout qu'on va rentrer bientôt dans les défauts. Naam. On va rentrer, inchallah, bientôt dans les défauts, naam, du mariage, ce qui est très important. Le cours a duré 1h30, inchallah ta'ala. Je préfère m'arrêter ici, bi'ilmillahi azzawajal, naam, pour que répondre à vos questions dans 5 minutes, inchallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Mais la biche, je suis pas en fille. Je veux faire ton pétateur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabbat chada bila biwatan. Ma a'la anhu malou wa ma kassab. Sayasla naran datalab. Wa maratu hamalat al-hatab. Fi didi hablum min masad. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخانا إسماعيل. Que الله سبحانه وتعالى protège ta fille et toutes les filles de nos frères et nos sœurs et tous les enfants de nos frères et nos sœurs. نعم. بارك الله في سمية. وسأل الله تعالى أن يجعلها ممن يحفظ كتاب الله عز وجل. نعم. طيب sans tarder inshallah ta'ala on va commencer par Issa. Vous connaissez le règlement maintenant. Dès que j'enlève le rouge à la personne, n'am, elle écrit numéro 1 pour dire d'abord je suis là. En même temps, celle qui est en dessus d'elle. Comme ça, j'enlève toujours par deux personnes. Les deux marquent numéro 1, ça veut dire on est déjà là. N'am. Sinon je passe à la troisième. Vous connaissez le règlement. Quand une personne pose une question et que la question n'est pas conforme au cours, je lui dis repose une deuxième question. C'est pour ça que chaque personne doit laisser une deuxième question avec elle en ce cours. Inch'Allah ta'ala. Oumaysa, hayakillah, tafadlali. Oumnouh, écrit numéro 1, Inch'Allah. Ismaïl, tafadlal pour lire, Inch'Allah.
Salam alaykoum, Cheikh. Hayakoum Allah, wa barakallahu fikoum pour votre dourous profitable. Voici la question d'une sœur. Cela concerne le divorce. La situation est un peu compliquée. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Wallahu musta'an. Une sœur s'est mariée une première fois avec un frère. Le frère l'a divorcée alors qu'elle était purifiée, mais en ayant un rapport avec elle. En ce sens, il n'a donc pas appliqué la sunna. Le frère était au courant de cette règle, mais a quand même divorcé sa femme. La sœur souhaite donc savoir si ce divorce est bien valable, car depuis, elle s'est remariée. Elle est inquiète, car si son premier divorce n'est pas valable, cela veut dire qu'elle est toujours qu'elle est toujours la femme du premier, et par conséquent, elle n'a pas le droit de se remarier. Barakallahu fikoum. La question est terminée, cher. Tafaddalou. Mashkouri.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Voilà justement, c'est ce que j'allais dire aussi. Quand je réponds à la personne, même quand je réponds à la personne, la personne m'écrit numéro 1, comme quoi, يعني, j'entends بإذن الله عز وجل, car il est possible que la personne se déconnecte et que je parle dans le vide. Je dis, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. J'attire votre attention ici sur quelque chose de très grave. Quelle est cette chose de très grave? C'est que certains gens, comme l'a fait ici la sœur, dont est en train de parler au Maïssa, quelle est la chose grave? C'est que elle pose la question après avoir fait l'action. Elle se remarie d'abord et ensuite elle dit j'ai une question à poser. Alors que babul ilmi qabl al-amal, tout le monde sait que on pose d'abord les questions, on voit dans quelle situation on est, dans quel cas on est, suis-je divorcé, suis-je marié, suis-je quoi. Ensuite, d'après la réponse du savant bien sûr, je vais voir ce que je dois faire. Donc je réponds à cette sœur, je lui dis quoi? Quand une personne divorce, quand un homme divorce une femme, nam, il doit la divorcer quand elle est purifiée sans la toucher, ou bien il la divorce quand elle est enceinte. C'est seulement cela, le divorce de la sunna. S'il la divorce dans les menstrues, ou bien après s'être purifié, il l'a touché, ça s'appelle un divorce de la bid'a. Et dans ce cas, celui qui l'a divorcé a allé pécher. Et le divorce est valable. Et en plus de cela, il a des péchés, en même temps, le divorce est compté, il est valable. Naam, il est valable. Donc, dans ce sens, inshallah ta'ala, si elle s'est remariée après, naam, si elle s'est remariée après que la période de viduité ait pris fin, il n'y a, inshallah ta'ala, aucun problème, bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Fiki barakallah. Tayyib. أم نوح تفضلي أبو لقمان اكري إن شاء الله تعالى نميرو أ
السلام عليكم يا شيخ كالله عز وجل vous récompense pour vos dourous et votre patience. On a proposé un frère à une femme en vue d'un mariage en tant que deuxième épouse bi'idhnillah. La femme n'ayant pas de tuteur, elle sait qu'elle doit commencer par demander à l'instance qui représente les musulmans en France, puis un imam officiel, puis un imam normal, puis un frère pieux. Mais en France, la polygamie est interdite. Et les instances qui représentent les musulmans refuseront sûrement de prendre de tels risques sous peine d'amende de l'État français ou autre. Est-il permis à la sœur de s'adresser directement à un imam sans passer par l'instance représentative des musulmans? Barakallahu fikum cheikh wa jazakumullahu khayra. La question est terminée, cheikh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, si c'est comme vous dites et qu'il ne reste de solution que l'imam et que vraiment elle n'a pas de tuteur, car vous avez assisté avec moi, c'est qu'il est les tuteurs et comment on commence par les étapes. Si c'est comme ça, inshallah ta'ala, il lui est permis, wallah azza wa jal a'lam, que elle passe par l'imam, car il ne lui reste que cette solution. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tayyib. Abu Luqman, tafadhal. Une seconde. Naam, Abu Luqman, une seconde, inshallah ta'ala. Une dernière chose, parmi tous les doros que vous avez donné ce mariage, avez-vous déjà parlé de la polygamie, condition, sunna? Sinon, allez-vous le faire, bidna azzawajal? Naam, la polygamie, c'était peut-être le premier dars ou le deuxième, où j'ai dit que c'était permis. Ensuite, j'avais parlé des conditions, que la femme aussi avait le droit de dire que ma condition, c'est qu'il ne prenne pas une co-épouse. Ça, je l'ai très bien expliqué, inshallah, dans beaucoup, beaucoup de quoi? Beaucoup de doros, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal, alam. Naam, attention, on vient me dire quelque chose de très important ici. Naam, on vient de me dire quelque chose de très important. Tayyib. C'était qui Ismaël? C'était qui la première personne qui a posé la question de la sœur? De la sœur qui s'est remariée. Cherche-moi la personne qui m'a dit que Annie, elle s'est mariée, il l'a touchée après le rapport, etc. C'est qui cette personne? Oumaïssa, tayyib. Oumaïssa, s'il te plaît, Oumaïssa, lève la main. Lève la main, Oumaïssa, pour que je sache où tu es. Lève la main. Alhamdoulilah. Oum Issa, je t'ai enlevé le point rouge. Écris numéro 1, Inch'Allah. Alhamdoulilah. En fait, le frère Abu Marwan vient de me rappeler quelque chose de très important que peut-être je n'ai pas compris. Naam. Et que toi aussi, Oum Issa, tu ne me l'as pas dit. Naam. Écoute, Oum Issa, lorsque ce frère, Naam, a eu un rapport avec elle, avec la femme, après s'être purifiée. Naam, le divorce a été prononcé avant le rapport ou après? Il l'a divorcé avant le rapport. Ou bien il l'a divorcé après le rapport? J'attends ta réponse qui est très importante. Après, justement, moi j'ai répondu en comprenant que c'est après. Nam, il a eu un rapport et il a divorcé. Car certains ont compris que c'était avant. Si c'était avant le rapport, Nam, il a divorcé, ensuite il a fait le rapport. Dans ce cas, c'est toujours sa femme. Elle n'est pas divorcée. Nam, donc moi je t'ai répondu, d'après ce que j'ai compris que ce, le rapport a eu lieu avant le divorce. Mais si le rapport a eu lieu après le divorce, ça veut dire que c'est toujours sa femme. Et que dans ce cas, elle n'est pas divorcée. Et que dans ce cas, elle n'est pas donc mariée avec l'autre. Naam. Demande, inshallah ta'ala, à la sœur. C'est très important. Naam, je répète, Oum Issa. Quand elle s'est purifiée, s'il l'avait divorcée auparavant, et il l'a touchée maintenant après s'être purifiée, ça veut dire qu'elle est toujours sa femme. Car il ne l'a pas encore divorcée après l'avoir touchée. Mais si il l'a touchée d'abord, naam, ensuite il l'a divorcée, dans ce cas, ce n'est plus sa femme. Allah Azza wa Jal a'lam. Il me semble bien que le rapport a eu lieu avant le divorce. Alhamdulillah. C'est ce que j'ai compris moi. Naam. Mais demande, inshallah ta'ala. Abu Luqman, tafadhal khoud laqit, inshallah ta'ala. Je te donne le micro, bi'idhnillah Azza wa Jal. Et. Attendez. Et Oum Abdillah, écrit numéro 1. Si tu es là, inshallah ta'ala. Tafadhal Abu Luqman.
Naam, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Donc Amine aussi pour tout à l'heure pour la doua sur les enfants Ismaël, Mashallah pour tes enfants aussi. Et donc Amine ya Rab pour tous les enfants des musulmans, qu'Allah les protège et les fasse grandir dans un islam sérieux. Cher, donc ma question était quand le wali d'une femme demande comme condition de faire les papiers pour venir en Europe, la femme est dans un pays musulman, mais que la future mariée est indifférente à cela, c'est-à-dire que qu'elle reste en Algérie ou qu'elle vienne en Europe, ça lui est indifférent. Le prétendant est-il obligé de respecter cette condition, tout en sachant que lui, il n'a pas vraiment envie de la ramener en Europe? Voilà, ma question est finie, je vous passe le micro. Barakallahu fikoum, jazakallahu khair. Non, inshallah. Smihni, si je n'ai pas été très clair. Quand le wali d'une femme demande comme condition de faire que le prétendant, donc qui va se marier avec inshallah avec sa fille, qui demande comme condition qu'il fasse les papiers pour qu'elle vienne en Europe, mais que cette sœur en question, elle est indifférente à cela, qu'elle reste en Algérie ou qu'elle vienne en Europe, pour elle ça lui est indifférent. Est-ce que le prétendant, il est obligé de respecter cette condition, c'est-à-dire la condition que le wali lui demande, c'est-à-dire de faire les papiers pour qu'elle puisse venir en Europe? Est-ce que j'ai posé la question clairement, cher? Je suis désolé. Je donne le micro. Ah, Nam, en Europe, oui. Le prétendant est en Europe et puis la sœur est en Afrique du Nord. Donc tout le monde a entendu, en Algérie, mais donc. Ouais.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Abu Luqman, si c'est comme j'ai compris, tu écris numéro 1. Si c'est comme j'ai compris, tu écris numéro 1. Chauffe, la femme, par exemple, est en Algérie, et son tuteur, bien sûr, est avec elle en Algérie. Maintenant, le prétendant la demande pour qu'il se marie avec elle en France. Il veut la faire venir en France. Et alors, son père, le tuteur de la femme, lui dit: il faut que tu fasses les papiers à ma femme, pardon, à ma fille, pour que je te la donne. C'est ça? Naam, qu'est-ce que ça veut dire, il lui fait les papiers? J'ai pas compris. Si elle va se marier là-bas, il faut bien qu'elle ait les papiers. Quel papier? Il parle de quel papier ici? T'as faute de prendre le micro.
Non, bien sûr, les papiers sont obligatoires, bien sûr, en Algérie, c'est évident, mais faut passer par par le ministère des Affaires étrangères pour faire transcrire, ils appellent ça la transcription de mariage, de manière à ce que les sœurs qui sont mariées hors Europe puissent avoir les papiers européens au sens large, c'est-à-dire, donc ils appellent ça la transcription de mariage. Maintenant, c'est ça la condition que le père demande, c'est-à-dire. C'est ça la condition que le père demande. Bien sûr, les papiers se font en Algérie, bien sûr, le mariage religieux et administratif, mais il demande à ce que ça soit transcrit pour que ça puisse être validé ici en Europe, c'est-à-dire en France.
Moi, je trouve, Allahu Ta'ala alam, qu'il a demandé quelque chose de très normal. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé que ses papiers, pardon, que sa fille vive avec des papiers, là-bas où elle va vivre avec son mari, pour qu'elle n'ait pas de problème et qu'elle soit reconnue. Eh, non, c'est très normal. Mais qu'elle soit reconnue que c'est son épouse et ce n'est pas une, je sais pas qui, une femme qui vit avec lui comme ça. Non, ce qu'il a demandé, c'est quelque chose de très normal. Reste autre chose qui est important. Reste autre chose qui est important. C'est quoi? C'est comment lui a-t-il permis, hein, comment lui a-t-il permis qu'elle quitte ce pays, hein, musulman, pour aller dans un autre pays de kuffar. Naam, si elle veut rester en Algérie, naam. Si elle veut rester en Algérie, il n'y a aucun problème, bi'idhni azza wa jal. Naam. Si elle veut rester en Algérie, il n'y a aucun problème, bi'idhni azza wa jal. Et elle a les papiers comme quoi elle est son épouse aussi là-bas. Mais normalement, le père, naam, aurait dû mettre aussi comme condition qu'elle ne vive pas là-bas, mais qu'elle vive dans un pays musulman, ou bien que si elle va là-bas, c'est seulement juste pour quelques mois ou là, pour qu'ils repartent de nouveau vers le pays musulman. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tayyib. Fika barakallah. Abdillah. Tafadlali. Mohamed, écrit numéro 1. Ismaël, est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah? Ismaël, écrit numéro 1. Alhamdoulilah. Ousma, Mohamed s'est trompé. Elle a directement affiché sa question. Commence, Inch'Allah Ta'ala, par Oum Abdillah. Tafadl.
Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc, la question de Oum Abdillah. J'aimerais savoir si l'annulation de l'acte de mariage par la femme, donc avant consommation du mariage, était considérée comme un divorce ou non, et donc par conséquent savoir si les raisons autorisant l'annulation du aqd zawaj étaient les mêmes que ceux autorisant le divorce. Jazakum Allah khayra. Intéhé soual.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama talaqu liman yamliku saq » ou bien quelque chose comme ça, dans un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a montré que peut divorcer celui qui quoi? Celui qui possède le tibia de la femme. Celui qui possède son tibia, c'est son mari, c'est-à-dire pas une autre personne. En islam, la femme, comme vous savez, ne divorce pas, mais peut demander la séparation avec consentement du mari, ce qu'on appelle un khula. Elle lui rend la dot, ou bien peut annuler son mariage. Annuler. Et la grande différence entre divorcer et annuler, c'est que le divorce, elle ne peut pas. C'est l'homme qui divorce. Et annuler, elle peut. Pourquoi? Car elle peut annuler quand elle a mis dans son contrat de mariage des conditions qu'il n'a pas respectées. Dans ce cas, elle annule. C'est l'importance de quoi? L'importance des conditions dans le contrat. Mais si elle n'a mis aucun contrat dans le mariage, qu'elle s'est mariée, alors elle lui demande de divorcer. C'est lui qui divorce. Ou elle lui demande le khula, qu'il accepte la dot et qu'il se sépare d'elle, et qu'elle se sépare de lui. Tant que quoi? Tant qu'elle n'avait pas mis de conditions. Mais si elle a mis des conditions, alors quoi? Alors elle peut annuler s'il a transgressé les conditions bi'idhnillah azza wa jal. J'ai une autre question si l'autre n'est pas bonne. On va voir, il va la lire et on va voir. Tu vas le chier.
Salam alaikum. Une femme qui se... La question de Oum Mohamed. Une femme qui se parfume chez elle pour son mari. Mais si elle doit sortir ou elle veut sortir, comment fait-elle? Barakallahu fik. Si ma question n'est pas dans le sujet, ne la prenez pas en compte. Ensuite, elle a dit qu'elle a une autre question si la première n'est pas bonne. Tafadhal ya cheikh.
Le frère Kubi, inshallah ta'ala, écrit numéro 1. En ce qui concerne la femme qui se parfume pour son mari, Naam, c'est bien. Elle a même des récompenses si elle a fait ça pour plaire aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a demandé à la femme de faire des choses pareilles. Naam. Maintenant, si elle veut sortir, elle doit faire de sorte que le parfum n'ait plus d'influence. Naam, il n'ait plus d'impact. Comment qu'elle fait? Je ne sais pas. Ce sont les femmes qui savent cela, qui savent avec quoi il faut se laver pour que le parfum parte. Naam, il y a sûrement d'autres produits aussi qui déparfument. Donc c'est elle qui doit voir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit acheter pour, inshallah ta'ala, enlever l'odeur du parfum. Se laver, faire des produits, je ne sais pas. Il y a sûrement des choses qui enlèvent les parfums. Et tant que on peut sentir d'elle le parfum, il lui est interdit de sortir. Jusqu'à ce que on lui dise, khlas, on t'a senti, il n'y a plus l'odeur du parfum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ummu Abdurrahman, écrit numéro 1. كوبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais savoir, inshallah, pour une sœur convertie qui n'a pas de mahram, car personne n'est musulman dans sa famille. On entend la suite, inshallah, cher. طيب, je reprends la question, cher de Kubi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais savoir, inshallah, pour une sœur convertie qui n'a pas de mahram, car personne n'est musulman dans sa famille, comment doit-elle faire pour éviter de parler avec le prétendant? Et vu qu'il doit venir pour voir son visage,
Ismaël, tu es là? Ismaël, tu es là, Ismaël? Naam, Ismaël de Marseille. J'entendais la mère. J'entendais ta mère, pardon, ta mère. J'entendais ton épouse qui dit aux enfants d'aller dormir. D'aller dormir. Attention, dans le micro, on entend tout, hein. Attention, on entend tout dans le micro. Naam. Naam. Inch'Allah, quelle est la soeur?
Alors, je reprends la question à Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, Inch'Allah, pour une soeur convertie qui n'a pas de mahram, car personne n'est musulman dans sa famille, comment doit-elle faire pour éviter de parler avec le prétendant? Et vu qu'il doit venir pour voir son visage, Inch'Allah, dans une semaine, il a son téléphone et doit l'appeler avant de passer en sachant qu'il ne rentre pas chez elle. Elle ouvre la porte et juste il voit son visage et s'en va, Inch'Allah. Est-ce possible? Je pense que la question est terminée, cher. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Elle ouvre la porte, ensuite il voit, il s'en va. Ça ne me plaît pas beaucoup cette chose. Naam. Car je ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut rentrer et ne plus sortir. Il peut pousser la porte et rentrer et ne plus sortir. Naam. Je préfère que, si elle pouvait, Naam, si elle pouvait, elle parlait avec une sœur mariée, et elle demanderait à son mari, le mari de la sœur mariée, qui le ferait venir chez lui. Elle cherche une sœur qui est mariée, et elle demande à ce que son mari à elle, son mari de la sœur, fasse venir cet homme à la maison. Naam, ou bien, Naam, d'abord, je commence par cette chose. Ensuite, elle va chez la sœur. Elle va chez la sœur. Elle se fait inviter chez la sœur. Et, Inch'Allah ta'ala, elle rentre. Naam, elle rentre dans la pièce. Naam. Ensuite, elle lui montre juste son visage. Elle lui montre juste son visage devant la sœur. C'est-à-dire, ils seront trois. La sœur, et elle, celle-là, la prétendante, et l'autre comme ça dans le couloir, il est debout dans le couloir, sans rentrer dans la pièce, Naam, elle lui montre comme ça, son visage. Elle lui montre son visage et l'autre sœur, bien sûr. Et par exemple, derrière la porte, là, il ne la voit pas. Il voit seulement la prétendante qui est dans la pièce. Naam. C'est la meilleure des choses, Inch'Allah Ta'ala. Quant à ce que tu as dit pour la maison, tu ouvres la porte ici, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, Bidna Azzawajal. Naam. Et je ne crois pas que ça se fasse comme ça. Mais ce que je viens de dire est mieux, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible. Tu vois une sœur, naam, si c'est possible. Ou alors, si c'est par exemple dans les escaliers, naam, pas dans la maison. Par exemple, lui, il est devant la porte de la rentrée de l'immeuble. Et toi, par exemple, en descendant les escaliers, par exemple, naam, tu lui montres juste, tu lèves le sitar pour voir la robe et tu descends, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Azza wa Jal A'lam. Naam. Oumou Abdelrahman, tafadlali. Oum Houdaïfa, écrit numéro 1. Naam. QB termine. Et comment quoi? Naam, qu'est-ce que ça veut dire comment fait-elle pour le téléphone? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire comment fait-elle pour le téléphone? Explique-moi, Inch'Allah. En principe, elle donne le téléphone. Naam. Elle donne le téléphone à qui? Au mari d'une sœur. Elle donne le téléphone à une sœur. Elle a sûrement une sœur. QB a sûrement une sœur qu'elle connaît. Et cette sœur donne à son frère ou à son mari. Et son mari lui parle. Il lui dit, voilà, je suis de la part de QB, etc. Et voilà où est-ce qu'elle habite, voilà où est-ce qu'on se rencontre, voilà ceci, voilà cela. Naam. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, que tu dois faire, bi'idhnillahi azza wa jal. Et que Allah azza wa jal te facilite pour, Inch'Allah Ta'ala, avoir été pieuse et avoir eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oumou Abdelrahman, tafadlali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur qui commence à peine de découvrir le manhaj, alhamdulillah, dont le mari a cessé de prier, malgré les nombreuses exhortations de son épouse. Se demande si elle doit le divorcer, si elle reste avec lui, prend-elle des péchés? Que puis-je lui conseiller, lui parler de la fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah, barakallahu fikoum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur ici dit, se demande si elle doit le divorcer. On a dit qu'une sœur, qu'une femme ne divorce jamais en islam. C'est seulement l'homme qui divorce. Mais la femme peut se séparer et non pas divorcer. Voyez. Naam, elle doit avoir une assise avec lui, naam, une dernière assise. C'est-à-dire que elle lui dit, voilà, maintenant on est arrivé vers la fin. Je t'ai fait plusieurs exhortations, tu ne veux pas comprendre. Et elle passe par la dernière étape. C'est quoi la dernière étape en islam? Elle convoque quelqu'un de sa famille à elle et quelqu'un de sa famille à lui. Et elle leur explique que voilà, moi je fais comme condition qu'il fasse la prière ou bien je suis prête à abandonner ce mariage. Dites-lui qu'il revienne à la prière ou bien se terminer entre nous. Naam. Si après cette assise, il n'accepte pas, naam, ou plutôt quand elle lui fait aussi cette nasiha, il ne veut pas ramener quelqu'un de sa famille, lui, naam, elle lui dit alors carrément, naam, je t'avais donné le choix, je n'ai rien à dire sur toi, tu es mashallah, etc. Sauf que mon islam ne me permet pas de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Naam. Et c'est pour cela que on doit, Inch'Allah Ta'ala, chacun prendre son chemin. Chacun, Inch'Allah Ta'ala, prend son chemin. Alors je demande à l'amiable de me divorcer. Naam. Sinon, je vais faire le khul et me séparer de toi. Bi'idnillah Azza wa Jal. Car Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymeen ont dit que la femme n'a pas le droit de vivre avec quelqu'un qui a abandonné sa prière. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Il faut qu'elle soit, yani, qu'elle soit pas c'est pas douce. Faut pas qu'elle soit, yani, faut qu'elle ait de l'autorité, un peu d'autorité quand c'est question de din, question d'enfer et de paradis. Question d'enfer et de paradis, elle joue pas dans ces choses-là. Faut qu'elle soit ferme, naam, qu'elle soit ferme. je suis pas en train de jouer ici. Non, faut qu'elle soit ferme et prenne une décision qui va marquer sa vie. Allah Azza wa Jal a'lam. Non. Zayd, écrit numéro 1, inshallah. Hudayfa, tafadhali.
La question est de Zayd. Une sœur issue des Zina a-t-elle le droit de prendre le nom de son époux ou doit-elle garder celui de sa mère? De manière générale, peut-on prendre le nom de son mari lors du mariage civil juste pour les papiers? Hayakumullah, Hayakullah ala al-Qur'an wa sunna shaykh, Jazakumullah khayra wa... Afouane Cherka, vous avez traité cette question de nombreuses fois, mais je n'ai pas retenu la réponse. Khair Inch'Allah. Et pour la sœur Hudayfa, coupez votre question en petits morceaux, Inch'Allah. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à Hudayfa que j'ai reçu sa question, je vais Inch'Allah ta'ala lui répondre. Naam. Quant à Zayd qui a posé sa question, je lui dis qu'en général, en islam, la femme ne prend pas le nom de son époux. La femme reste toujours avec le nom de son père. Non. Il ne prend jamais le nom de son époux. Mais dans un cas pareil au tien, et pour ceux qui vivent en France, et pour ceux qui vivent même en Algérie, où on leur force, on les force à ce qu'elles prennent le nom de leur mari, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles le prennent seulement sur papier. Naam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée. Est-ce qu'elle a une autre solution? Elle n'a pas. Elle le prend seulement sur papier. Par exemple, en Algérie, il y a cette chose de bien, enfin, qui est au milieu. C'est quand ils écrivent sur le passeport, par exemple, ou bien la carte d'identité, ils écrivent son nom à elle. Madame Keda, le nom du père. Épouse de qui? Épouse de X. Comme ça, c'est mieux. On sait que voilà son nom et c'est l'épouse de qui? De X. Naam. Donc, voilà ce qu'elle doit faire. Yani, ici, elle est obligée de prendre. Je pense aussi on peut épouser. Il me semble qu'en France aussi, on peut épouser. Allahu a'lam. On peut épouser qui? J'ai pas compris. Je veux dire Madame X, épouse de Gda. Naam. Madame X avec son nom à elle. Épouse de celui-là. Naam. Comme ça, ça se fait. Donc, c'est pas Madame avec le nom du mari. C'est Madame L. Naam. Ensuite, épouse de X. Inch'Allah ta'ala, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Et même si on l'a forcé, ce n'est pas elle qui a les péchés. D'ailleurs, ici, on me dit que ce n'est pas obligatoire de prendre le nom du mari lors d'un mariage à la mairie. On vient de me dire maintenant, même en France, Abou Marwan dit, ce n'est pas obligatoire de prendre le nom du mari lors d'un mariage à la mairie. Wallahu azza wa jal a'lam. Tayyib. Naam, voilà, inshallah ta'ala, tu viens d'apprendre, du Koweït, on vient d'apprendre quelque chose qui se passe en France. Alhamdulillah. Quant à Hud, elle a dit ce qui suit. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Un frère et une sœur qui sont mariés ont eu trois enfants. Deux filles et un garçon. Ceux-ci ont appris il n'y a pas longtemps que la première des filles est née de Zina et que les deux autres enfants sont nés après le mariage civil. Seulement, qu'en est-il de leur situation? Les filles doivent-elles se voiler devant leurs frères et leurs pères? Leur mère est-elle encore leur mère, sachant qu'à l'époque, leur mère n'était pas convertie et que le père ne pratiquait pas, il ne priait pas. quand elle dit, sachant que la mère n'était pas convertie. Umm Hudayfa, réponds-moi, est-ce que cela veut dire que c'était par exemple une mécréante, ou là une chrétienne, ou là, mariée à un musulman? Est-ce que c'est comme ça? Réponds-moi, Inch'Allah. Taïeb, donc, une mécréante mariée à un musulman. Cela, leur mariage n'est pas accepté. Mais, il y a une autre question. Cette mécréante, n'était-elle pas une chrétienne? Peut-être que c'était une chrétienne. Réponds-moi, Inch'Allah. Alors, c'était quoi? Une athée? Une athée qui ne croit pas en Dieu, c'est ça? Une athée, tu veux dire? J'attends la réponse. Une croyante en quoi? Elle croyait en quoi? Elle n'est ni musulmane ni chrétienne. Elle croit en quoi? J'ai pas compris. J'attends, Inch'Allah. Donc chrétienne. Elle était baptisée de naissance. Donc chrétienne. Non. Donc Umm Hudayfa, Wallahu ta'ala alam. Toi, tu réponds à sa place, Naam, mais sans être très sûr. Car toi aussi, tu ne sais pas exactement. Naam, car toi aussi, tu ne sais pas exactement quel est son cas. Car si elle était elle, elle aurait répondu ici. Si. Taïb, alors réécris-moi, c'était quoi? Réécris-moi, elle était chrétienne ou elle était athée ou elle était musulmane? Réécris-moi.
Et
bien sûr, ils ont eu des enfants sans avoir fait le mariage religieux, n'est-ce pas? Naam. Donc les enfants, taïeb, bien une question très importante que je ne t'ai pas encore posée. Et après, maintenant, se sont-ils mariés religieusement ou pas encore? Maintenant, ils se sont mariés religieusement ou pas encore? Non, après la naissance des enfants, ils se sont mariés religieusement. Donc, Inch'Allah ta'ala, les enfants sont des enfants de quoi? Sont des enfants de zina, par malheur. Hein? Par malheur, les enfants sont des enfants de zina, mais suivent leur mère. Et cet homme n'est pas leur père. Cet homme n'est pas leur père. Et cette femme est leur mère. Mais ces filles-là, si ce sont des filles, elles ont le droit de ne pas se dévoiler devant leur père, devant cet homme. Elles ont le droit de se dévoiler devant cet homme, car cet homme ne peut jamais se marier avec ces filles-là. Naam. Le frère à qui? C'est leur frère. Leur frère, elle se dévoile devant lui, car ils ont la même mère. Car ils ont la même mère, même s'ils sont tous de zina. Ils ont la même mère. Donc elle se dévoile devant leur frère et devant cet homme qui n'est pas leur père, mais qui est leur beau-père. Wallahu azza wa jalla, c'est pas leur père. Naam, c'est leur beau-père. Naam, c'est leur beau-père, inshallah ta'ala. Tayyib, c'est à qui le tour maintenant? Mouzeï, je crois qu'elle a posé la question. Triolo 59. Hayakallah tafadlal. Fiki barakallah. Triolo. Hayakallah tafadlal. Et en même temps, Abdillah 1, écrit numéro 1, Inch'Allah.
Assalamu alaikum, cher. Une sœur pose la question suivante. Un frère veut la demander en mariage. Cela fait 7 ans qu'il veut aller la demander. Cependant, le père de la sœur ne veut pas le frère, car le frère n'est pas tunisien. La sœur est tunisienne. Aucun de ses frères ne veut être son tuteur. Que doit-elle faire? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que elle est dans un pays musulman ou pays de kuffar? Naam, elle vit en France et le frère aussi. Dans un pays musulman, elle serait allée au juge qui aurait enlevé la tutelle à son père et donnerait la tutelle de force à une autre personne de sa famille. Si cette personne ne veut pas accepter la tutelle, alors le juge lui-même, quoi? La marie. Naam. Mais maintenant, comme quelqu'un est en France, donc il doit accepter ce qui en découle. Et ce qui en découle, c'est qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le tribunal islamique. Il n'y a pas le tribunal musulman. Naam. Ensuite, ce père qui ne veut pas le marier avec ce Tunisien, peut-être qu'il a des raisons que nous, on ne connaît pas. Peut-être qu'il a des raisons que nous, on ne connaît pas. D'après la sœur, c'est seulement parce qu'il est Tunisien. Mais nous, on ne sait pas exactement pourquoi il ne veut pas la marier avec ce Tunisien ou parce qu'il n'est pas Tunisien, pardon. Là, on voit, je ne vois, je ne sais pas exactement pourquoi il ne veut pas la marier avec ce Tunisien. Là. Et 7 ans, pour moi, c'est beaucoup pour cette sœur. C'est beaucoup pour cette sœur. Hein? Elle devrait quoi? Elle devrait, puisqu'elle sait qu'elle est en France et que c'est impossible qu'elle puisse se marier son tuteur et qu'il n'y a pas le juge islamique, le tribunal islamique, elle devrait faire des efforts pour ramener des gens qui doivent faire raisonner son père et non pas dormir et dire j'attends. Maintenant, 7 ans, après 10 ans, après 20 ans, après elle va se trouver vieille, après le frère va se marier avec 2 ou 3 autres, pas avec une femme. Donc elle devait quoi? Faire son possible pour lui ramener des gens de sa famille, des voisins, des je ne sais pas qui, pour le faire raisonner. Ou alors, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et se marier avec un autre. Et se marier avec un autre, naam, et peut-être que Allah ta'ala ne lui a pas écrit cette personne. Mais puisque j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas en islam, en terre d'islam, donc c'est difficile pour elle. Naam, donc je lui conseille qu'elle essaie au maximum de faire des pressions sur son père en lui faire venant des gens, naam, de la famille, son oncle, ses frères, etc., les voisins, pour le faire raisonner. Ou alors, le frère lui-même, qui veut se marier avec elle, il doit aller plusieurs fois parler à son père. Insister, parler, insister, parler, jusqu'à ce qu'il comprenne de lui que c'est quelqu'un de masha'Allah, etc. Peut-être qu'Allah Azzawajal va lui ouvrir cette porte. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, je ne vois pas autre chose. Abdillah, tafadlali. Sajida, écrit numéro 1.
Salam alaykoum, mes chers. J'ai un frère qui prie à peine à l'heure. Il veut se marier avec une fille qu'il a fréquentée pendant 5 ans. Elle est non voilée et compte travailler à mixité. Sachant que cela dérange au point mon frère, mes parents doivent-ils donner leur consentement malgré leur désaccord? Barakallahu fikoum, mes chers.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Normalement, les parents ne donnent pas ici, dans un cas pareil, leur consentement, car ils vont l'aider à faire le haram en se mariant, en le mariant avec une fille qui non seulement est non voilée, mais encore va travailler avec les hommes. Ils vont être et avoir, ils vont être associés avec celui-là et avoir des péchés avec lui. Naam. Maintenant, si lui il n'accepte pas cette chose, qu'il se marie lui-même. Naam, il dit dans classe, moi je me désavoue de vous, et eux ils lui disent, nous on se désavoue de toi, il se marie lui-même. Sinon eux, son père et la famille lui disent, nous on n'accepte pas de te marier jusqu'à ce que cette fille, tu la forces pour qu'elle mette le voile. Naam, et que le travail c'est plus ou moins, c'est plus ou moins peut-être, le travail c'est entre lui et sa femme. Mais on te mariera avec elle si elle porte le voile. Si elle est toujours comme ça, on ne te mariera pas avec elle. Il cherche qui peut te marier, et pas nous. Pour que quoi? Pour qu'il ne prenne pas les péchés avec lui. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Sajida tafadlali. Abu Marwan, écrit numéro 1, inshallah.
Salam alaykoum wa rahmatullah. جزاكم الله خيرا pour ce درس. Je voulais savoir si je pouvais vous exposer mon problème en privé, les chers, après les questions-réponses, car c'est assez personnel et ça nécessite des détails. Si ce n'est pas possible, barakallahu fikoum, j'essaierai de vous joindre par téléphone. Tfadalou, cher.
Naam, Sajida 38, Inch'Allah ta'ala. Dimanche, Inch'Allah ta'ala, connecte-toi. Dimanche, connecte-toi vers... parce que... Et en même temps, je dis aux autres, Naam, en même temps, je dis aux personnes à qui j'ai rendez-vous dimanche prochain, et Annie, dans le Paltok, pour des choses privées, je leur dis que j'avais oublié que dimanche, Naam, je ne serai au micro ici à la maison qu'à partir de 21h chez vous. 21h chez vous. Donc je dis à Sajida, Inch'Allah, à la 38, que dimanche prochain, et les autres aussi qui m'entendent, vous vous connectez à partir de 21h chez vous, au Paltok, et Inch'Allah ta'ala, vous me trouverez et on parlera Inch'Allah ta'ala. Naam. Tafadla l'Abu Marwan et Akh Mohamed. Écrit numéro 1, si tu es là.
Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez Inch'Allah, Cheikh? Vous m'entendez, Inch'Allah? Donc, la question, Inch'Allah, elle concerne une sœur qui va vous entendre, qui va entendre votre réponse en direct, Inch'Allah. Donc, cette sœur, sa situation, c'est la suivante. Il y a un frère, il l'a demandé en mariage. Et quand il est venu la demander en mariage, il a dit à toute la famille de cette sœur, « Moi, je vous préviens, je suis déjà marié, j'ai déjà une femme, j'ai 3 enfants, et je veux me marier avec votre fille, parce que ma femme et mes enfants, je vais les envoyer faire la hijra. Et le temps que la hijra elle, se termine et que j'accumule de l'argent, il y a des périodes où je vais vivre en France, des périodes où je vais vivre dans le pays où j'aurai envoyé ma famille. Et la période où je vais vivre en France, eh ben, j'ai besoin d'avoir une femme à mes côtés qui va s'occuper de moi, qui va... Bimana, j'ai besoin d'une femme, alhamdoulilah. La famille, ils ont accepté, le père, il a accepté, tout le monde a accepté, ils ont marié leur fille, alhamdoulilah, et ça se passe très bien. Le frère, il fait le maximum d'efforts pour être équitable avec ses femmes, il leur apprend la religion, il travaille, il donne de l'argent, il fait beaucoup d'efforts, mashallah. Mais le problème, puisqu'il y a une question, on va y arriver à ça. La première femme, elle ne le sait pas. La première femme, elle n'est pas au courant. La famille du frère, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ne sont pas au courant. Alors que la famille de la deuxième femme, tout le monde est au courant. Et donc la sœur, elle dit, mais il m'interdit de dire à qui que ce soit qu'il est mon époux. Et je dois sortir toute seule pour faire les papiers, pour faire les courses. Cette sœur-là, en fait, à chaque fois qu'elle doit aller dehors pour une nécessité, elle ne sort jamais avec son mari, elle ne roule jamais en voiture avec son mari, elle n'est jamais en train de faire les courses avec son mari, elle est tout le temps toute seule. Car il ne veut pas que les gens le sachent pour pas qu'il le dise à sa famille. Bimana, le frère, il ne sort jamais dans la rue avec sa deuxième femme en France parce qu'il a peur d'être vu et reconnu et qu'après les gens ils vont aller le dire à sa famille. Et ça va lui faire après les montagnes de problèmes, ils vont commencer. Et cette situation elle dure déjà depuis un bon moment. Et ça, donc ça c'est le premier problème qui se pose. Et le deuxième problème qui se pose c'est que le frère il a dit à sa deuxième femme, moi je ne veux pas « Je ne veux pas avoir des enfants avec toi en France. » Et bien sûr, cette deuxième sœur, elle ne pourra pas faire la hijra à son tour tant que le frère il n'aura pas réglé les problèmes de la première. Donc la sœur, elle se retrouve toute seule en France, elle doit le dire à personne, sauf aux gens de sa famille, et le frère, il ne veut pas faire maintenant, et elle se retrouve un petit peu bloqué. Malgré qu'il est gentil, malgré qu'il lui apprend la religion, malgré qu'il fait des efforts, malgré qu'il essaye d'être juste. Donc voilà, la question, elle tourne autour de cette nasiha, Inch'Allah, barakallahu fik, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. La question de la sœur, c'est quelle nasiha pouvez-vous me donner vis-à-vis de cette situation à mon mari? Salamu alaikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Bismillahirrahmanirrahim wa salat wa salam ala ashraf al mursalin. Quand un homme se marie avec la deuxième, en islam, il n'est pas obligé d'avoir le consentement de la première. Même plus que cela, il n'est pas obligé de faire part de son mariage à la première. Quand j'ai dit de la deuxième, je voulais dire de la première. En islam, quand quelqu'un veut se marier avec une deuxième, il n'est pas obligé de demander l'avis de la première, ni il lui est obligé de lui dire que je me suis marié. Non. Mais la sœur, la deuxième, ayant accepté qu'elle se marie avec lui, ayant accepté, non, elle doit donc quoi? Accepter tout ce qui en découle. Elle savait qu'il était marié, non, et que quelqu'un qui se marie avec la deuxième, surtout s'il cache, que donc elle doit accepter toutes les conséquences qui vont en découler. Entre autres, qu'il ne sort pas avec elle, et ceci, et cela, et cela. Non. Car elle savait qu'il a fait ça en cachette et qu'elle a accepté de se marier avec lui. Elle aurait pu dire avant le mariage, je n'accepte pas ce mariage, sauf si tu dis à ta femme que tu vas te marier. Je n'accepte pas, sauf si elle sait. Mais elle n'a pas fait cette condition, donc inshallah ta'ala, elle doit accepter ce qui en découle. Elle doit accepter ce qui en découle. Maintenant, si vraiment elle voit que ça devient très difficile pour elle, et il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu, et qu'elle voudra demander de se séparer, ça c'est autre chose. C'est à cause des nouvelles choses qui peut-être vont avoir lieu, etc., et qui n'étaient pas dans son esprit. Mais, ayant accepté de se marier avec lui, sans qu'il apprenne à la première, elle doit accepter ce qui en découle, et au fait qu'il ne veut pas avoir d'enfant maintenant. Le fait qu'il ne veut pas avoir d'enfant maintenant, Naam, c'est quoi? C'est sa faute à lui, pas à toi. Ce n'est pas la faute à la sœur. C'est la faute à qui? À l'homme. Mais, là, voilà quelque chose de très important. Mais la femme ici, qui, son mari, lui interdit d'avoir d'enfant, peut alors mettre une condition et dire, Naam, ou bien on fait des enfants, ou bien tu me divorces pour que je me marie avec quelqu'un qui fait des enfants, car je veux avoir des enfants. Et le fait d'avoir des enfants est une chose très demandée en islam, et comme c'est demandé par l'homme, c'est aussi demandé par la femme. Naam. Donc maintenant, elle choisit. Le frère a dit, si ma femme est au courant, je te divorce, car je ne veux pas de fitna avec ma famille. Donc elle choisit. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit. Ou bien elle reste comme ça sans enfant. Et ce n'est pas elle qui a les péchés, c'est lui. Ou bien elle dit non, je veux des enfants. Et alors, il la divorce et elle se marie avec un autre. C'est à elle de choisir. Entre elle et son esprit. Elle dit, ou bien j'accepte celui-là comme ça. Et je n'ai pas d'enfant. Et entre parenthèses, viendra le jour où sa femme le saura. Car, trois choses qu'on ne peut pas cacher. Entre autres, le mariage. Non. Ou bien elle accepte de vivre comme ça sans enfant. Ou bien, elle lui dit alors, donne-moi, fais-moi des enfants. Il va dire, non, je te divorce. Elle lui dit alors, divorce-moi. C'est à elle, Inch'Allah, elle a de choisir quelle est la chose qui lui convient le mieux. Wallahu Azza wa Jal, a'lam. Tayyib, Akh Mohamed, Tafadlal et Mriam 93, 13 pour écrit numéro 1, Inch'Allah ta'ala. D'accord, je ne veux pas divorcer, c'est un bon mari. Alors qu'elle l'accepte sans les enfants. Alors qu'elle l'accepte sans les enfants. Elle n'a pas d'autre solution. Qu'elle l'accepte alors et qu'elle vive sans les enfants jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse une chose et c'est sûr que sa femme entendra, etc. Et il sera obligé d'avoir des enfants avec celle-là. Naam. Barakallahu fi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà le récit d'un frère converti de 19 ans. Je me suis marié avec une fille que j'ai fréquentée avant ma conversion à l'islam. En converti, nous nous sommes séparés par crainte d'Allah, mais nous sommes restés en contact. Nous parlions de religion et elle s'est mise à faire la prière et à évoluer dans la religion, etc. Après 2 années, la voyant évoluer et comprendre la religion, Après avoir parlé de mes projets, de ma vision de la femme voilée, très pudique à la maison, etc., je vis qu'on voyait les choses de la même façon et je décidai de me marier avec elle. Sa famille accepta bien que ce soit des non-musulmans. Sa famille accepta bien que ce soit des non-musulmans. Et suite au mariage à la mosquée, on partit habiter chez ma mère, qu'elle connaissait déjà depuis l'époque avant la conversion comme convenu. Mais voilà qu'au début, un jour, elle me déclare ne plus supporter le voile, ne plus supporter rester chez ma mère, m'attendre. Je l'ai dissuadé de partir et l'ai convaincu que l'endurance était préférable. Une semaine passa alors et elle me dit qu'elle était arrivée au bout, qu'elle n'en pouvait plus vraiment du voile. Elle me disait vouloir rentrer chez sa mère et elle est alors rentrée chez sa mère. Je l'appelais très souvent pour lui faire des rappels qui n'ont pas abouti. Elle ne voulait plus rentrer. Si la question est terminée, tapez un, Inch'Allah, Akh Mohamed. Ah, il y a la suite. Puis sa mère lui plaça un ultimatum en lui disant qu'elle ne voulait plus qu'elle mette le voile sous peine de ne plus lui adresser la parole. Elle me dit alors que son choix était clair, c'était sa mère avant son mari. J'ai quand même persisté dans le rappel. Puis, une fois maître Rezou a divorcé, elle me demanda de lui laisser du temps pour remettre le voile, que si elle revenait vivre avec moi, c'était sans voile et qu'elle serait la seule à juger de sa tenue vestimentaire qui avait déjà posé problème entre nous auparavant. Virgule. Qu'elle chercherait du travail ou qu'elle reprendrait l'école et qu'importe s'il fallait enlever le hijab, je suis maintenant décidé à la divorcer, ne voyant aucune solution car malgré les rendez-vous que je lui ai donné récemment, où on a parlé de la situation, est bloquée. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikoum, cheikh. Et la question est terminée. Sachant, cheikh, que c'est enregistré. Le frère a demandé à ce que cette question soit enregistrée. Barakallahu fikoum, cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cette femme, cette sœur, si je puis dire, est un conjoint qui ne remplit pas toutes les conditions. Non, c'est quelqu'un qui a faibli dans sa foi et qui est clair et a dit que je préfère le choix de ma mère à celui de mon mari et qui t'a quitté et allé vivre chez sa mère alors qu'elle n'a pas le droit. Elle est dans les péchés. Elle est maudite chaque nuit qu'elle passe chez sa mère. Non. Et maintenant, elle donne des conditions qui vont à l'encontre de l'islam. Que me conseillez-vous? Je te conseille, Inch'Allah Ta'ala, de divorcer celle-là. Je te conseille de la divorcer. Naam, ce n'est pas un bien pour toi, c'est un mal de rester avec elle et de reprendre avec elle. Je te demande, te conseille, pardon, de la divorcer le plus vite possible. Naam, tu téléphones, tu lui dis, je t'ai divorcé, c'est terminé entre nous. De préférence, divorce-la, un divorce sunni. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans les monstres. Naam. Et Inch'Allah Ta'ala, demande à Allah Ta'ala de te récompenser par une autre pieuse pour avoir laissé celle-là pour le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Et les pieuses, Inch'Allah Ta'ala, surtout en France, ce ne sont pas celles-là qui manquent. Il y en a plein, Masha'Allah, Allah Ibarak. Alors, oublie celle-là, Inch'Allah Ta'ala, divorce-la, oublie-la, et remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, et demande-lui de te compenser par une autre qui sera, Inch'Allah Ta'ala, 10 fois mieux que celle-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, Ummu Maryam 93, tafadlali. Angèle 13, écrit numéro 1, Inch'Allah.
Salam alaikum, cheikh. J'ai une précision concernant la question d'hier soir sur la musulmane de 18 ans que son père refuse de marier avec des frères du minhaj. La sœur est dans la salle, plutôt la djilbabeuse. Je vous ai demandé hier si elle pouvait être hébergée et vous l'avez conseillé que oui, s'il n'y avait pas de fitna pour sortir de la fitna. Car chez ses parents, il y a beaucoup de fitna, la musique, son père a la force de faire la bise aux hommes et refuse le djilbab, etc. En espérant que son père change d'avis par rapport au mariage et din. car personne parmi les maharim de sa famille ne veut la marier, et elle souffre beaucoup des fitnas chez elle. Doit-elle chercher un tuteur ou patienter? La question est terminée, tapez 1, Inch'Allah. La Cheikh, la question est terminée. Je vous laisse le micro.
Afouane, moi je la cherche d'abord dans la salle. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne l'ai pas encore trouvée dans la salle. Je la cherche pour lui poser une question. Car je n'ai pas bien compris sa question. Je la cherche, Inch'Allah Ta'ala. Il a la djilba buzz. C'est un drôle de pseudo-hada. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai cherché avec le D, djilbab. J'ai cherché avec J, djilbab. Maintenant, je vais chercher avec le L. La djilbab. Je cherche avec le L. Naam, elle est là. La djilbab. J'enlève, Inch'Allah Ta'ala, le point rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Doit chercher un tuteur. Je n'ai pas compris où elle cherchait un tuteur. Je n'ai pas compris. Moi, je lui avais dit que elle partait chez cette famille jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui fasse une solution et que quoi? Et qu'elle voit d'abord la première étape. Qu'elle voit d'abord qu'est-ce qui va se passer avec ses parents. Maintenant qu'elle est loin de ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont la rappeler et abdiquer à ses conditions, etc. Moi, je lui ai pas dit qu'elle saute comme ça sur les étapes. Qu'elle parte direct chez les gens et qu'elle dise mariez-moi. J'ai pas dit cela. J'ai dit d'abord, elle fait ça comme première étape et après, elle me contacte pour me dire où est-ce que c'est arrivé et pour que je lui dise qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est ce que j'ai dit hier et je me rappelle très bien avoir dit cette chose. Elle n'est pas partie. Car il ne veut plus l'héberger. Il ne voudra plus me marier. Naam. Est-ce que tu veux dire donc, ta soeur, si j'ai bien compris, est-ce que tu veux dire donc que est-ce que tu cherches un tuteur tout en étant chez tes parents? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que je cherche un tuteur pour me marier tout en étant chez mes parents? Est-ce que c'est ça la question? Subhanallah al-Azim, tout le monde sait que c'est impossible. Comment se fait-il que chez tes parents, vivant encore chez tes parents, tu vas te marier? Non, mais comment, vivant toujours chez tes parents, tu vas te marier sans eux? Comment ton père accepterait? Comment celui-là, yani ton beau-père Ada, comment qu'il va accepter que tu te maries alors que lui, il est à la maison? Cette chose, vraiment, yani, je n'arrive pas à la comprendre. Hein. Écris-moi, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tayyib, elle est là, la sœur? Non. Mais comment te laissera-t-il te marier? Il n'accepte pas. D'accord, j'ai compris cela. J'ai compris cela, non. J'avais dit que Naam, j'ai très bien compris cela, et qu'en islam, le juge musulman aurait alors enlevé la tutelle à ton père et aurait donné la tutelle ou bien à quelqu'un de la famille le plus proche, ou bien à un étranger, ou bien au juge lui-même qui pourrait te marier. Mais étant en France, il n'y a pas de tribunal musulman, ça devient quoi? Ça devient vraiment difficile. C'est-à-dire que le tuteur deviendrait qui? Deviendrait un, par exemple, le consulat ou bien imam de la mosquée, comme ça. Non. Mais j'ai peur que quoi? Que je te dise cette chose et ensuite il va t'arriver de grands problèmes avec tes parents. Non, j'ai peur que... Taïb, maintenant j'ai une question. Puisque tu dis je suis un enfant de Zina, est-ce que ta mère s'est mariée avec cet homme? Maintenant que toi, tu as été conçu d'un mariage non islamique, est-ce que cet homme s'est marié avec ta mère ou pas? Non, les deux sont musulmans, ça? Le père et la mère sont musulmans, ça? Alors, Alors la mère, qu'est-ce qu'elle est, chrétienne ou bien elle est athée? La mère, elle est chrétienne ou bien athée? Donc ceux-là, si je comprends bien, puisqu'ils sont comme ça, c'est-à-dire que devant cet homme-là, ils n'ont pas fait de mariage. Devant cet homme-là, tu dois te voiler. Car c'est un musulman qui s'est marié avec une athée. Et il n'y a pas de mariage avec musulman et athée. Il y a mariage avec musulman et chrétienne, musulmane et juive, c'est tout. Il n'y a pas mariage avec musulman et athée. La djilbabeuse, donne-moi inshallah ta'ala une semaine pour que j'expose ton cas à un savant inshallah ta'ala et que je te répondrai inshallah ta'ala dans une semaine bi'idhnillah azza wa jal. Naam, c'était là à la mairie, j'ai compris. Et pas aux musulmans. Naam, j'ai compris. Angèle 13, tafadlal. Inch'Allah ta'ala, je vais noter cela. Dans une semaine, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Angèle, es-tu avec nous, Inch'Allah?
Assalamu alaikum, cher. N'est-ce pas du shirk de dire je n'ai pas de chance de me marier du fait d'avoir utilisé le... Cher, je reprends la question. Assalamu alaikum, cher. N'est-ce pas du shirk de dire je n'ai pas de chance de me marier du fait d'avoir utilisé le mot chance? Barakallahu fikoum, parce que vous avez dit cela tout à l'heure durant le cours, ce qui me met beaucoup le doute. Tafadalou ya cheikh.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ismaël, es-tu ici? C'était quoi la question de Angèle? C'était quoi la question de Angèle? Peux-tu me la lire, tafadal?
Assalamu alaikum, cheikh. Donc la question, je la répète. Voilà, elle a dit assalamu alaikum. N'est-ce pas du shirk de dire je n'ai pas de chance de me marier du fait d'avoir utilisé le mot chance, barakallahu fikoum, parce que vous avez dit cela tout à l'heure durant le cours, ce qui me met beaucoup le doute.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai pas compris ce qu'elle a dit quand elle a dit vous avez dit ça dans le cours. Je n'ai pas bien compris cela. Non. Quand quelqu'un dit en arabe al-hadd, X a du hadd, hadd ça veut dire la chance, ou bien X n'a pas de hadd, on va voir ce qu'il veut dire par là. S'il veut dire al-hadd par la chance, que Allah Ta'ala lui a écrit cette chance, ce n'est pas du shirk. Mais s'il veut dire que les choses yani, ne dépendent pas de la volonté d'Allah, mais se font par chance, c'est le hasard qui décide que X se marie et X ne se marie pas. Ça rentre non seulement dans le shirk, mais dans le coffre. Naam. Mais s'il veut dire que Allah Ta'ala naam, m'a donné cette faveur et cette chance de me marier, naam, dans ce cas, ce n'est pas du shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran, naam, wa innahu la dhu hadhin azim. Ils ont dit que cette personne a vraiment de la chance, c'est-à-dire que Allah Ta'ala lui a écrit cette chance et ce bonheur. Et cette faveur, naam. Mais s'il dit que l'univers marche avec de la chance et c'est la chance qui fait marcher les choses, on dit non, tout a été écrit. Tout a été écrit 50 000 ans avant que Allah Azza wa Jalla ne crée quoi? Ne crée l'univers. Naam. Donc, cela dépend, qu'est-ce qu'il veut dire par le mot chance ici? Est-ce qu'il veut dire que c'est quelque chose que Allah Ta'ala a écrit ou là c'est quelque chose qui est venu d'elle-même? Naam, il y a la chance qui fait marcher les choses. Dans ce cas, ça devient du shirk ou du kofr. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tayyib. Youssouf et Firdaus écrit numéro 1. Naam, inshallah ta'ala, je vais pas tarder à m'arrêter. Tfadhal.
Salam alaikum. J'aimerais, car avant de me marier, j'avais dit à ma femme que je voulais qu'elle porte le sitar et elle m'a dit de patienter. Et ça fait un an et demi que je patiente et elle ne le porte toujours pas. Que dois-je faire? Donc je répète la question, et cher, j'aimerais, Avant de me marier, j'avais dit à ma femme que je voulais qu'elle porte le sitar et elle m'a dit, et ça fait un an et demi que je patiente et elle ne le porte toujours pas. Que dois-je faire?
Le frère, est-ce que je comprends, alaykoum salam, est-ce que je comprends que maintenant tu t'es marié avec elle? Dis-moi un. Alhamdoulilah, donc, puisqu'elle sait qu'elle devait le mettre et qu'elle ne l'a pas mis, l'âme, tu lui donnes des conseils et des nasiha, ensuite tu es libre. Ou bien continue avec elle, ou bien si tu vois que le port du sitar est obligatoire, si tu vois cet avis, ça veut dire quand elle sort sans cela, elle a des péchés et tu as toi aussi des péchés, c'était parmi les conditions, ah c'était parmi les conditions que je devais patienter. Naam, si c'était parmi les conditions que tu devais patienter, alors tu patientes. Car normalement, tu aurais dit dans les conditions, d'accord, à condition que je patiente, par exemple, une année, ou bien 2 années. Mais vous n'avez pas fixé quand est-ce. Et à chaque fois que tu veux parler maintenant, elle va te dire, on avait mis dans les conditions de patienter. Et la patience, elle peut te dire, ça peut être 20 ans, 30 ans et 40 ans. Tu patientes 30 ans et 40 ans. C'est pour ça que vous avez fait une faute en ne pas montrer et en ne pas mettre une fin à la patience. C'est combien la patience? Tu vas patienter combien? Naam. 1 an, 2 ans, 3 ans? Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu lui fais des nasiha. Naam. Tu lui fais des nasiha et tu lui dis que moi, j'ai patienté. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, assis-toi 5 minutes et dis-moi jusqu'à quand dois-je patienter. Sinon, ça ne va pas se terminer la patience. Alors dis-lui, explique-moi jusqu'à quand dois-je patienter, bi'idhnillah. Naam. Une seconde. Alhamdoulilah ala kulli hal. Donc, tu lui demanderas jusqu'à quand dois-je patienter. La patience n'a pas de fin, n'a pas de limite. On peut rester comme ça des années. Dis-lui comme ça, je dois savoir ce que je dois faire. Car il est impossible que toi tu sors dans la rue, etc., et que tu prennes des péchés, naam, et que ça soit moi qui endosse les péchés. Regarde, j'ai été gentil, j'ai été patient, alhamdoulilah, ça fait presque 1 année, ça fait presque 2 années, que je fais ce que tu dis, je patiente, mais je vois qu'il n'y a rien de ta part. Alors, Inch'Allah Ta'ala, dis-moi, est-ce que tu es prête à le mettre très bientôt, Inch'Allah? Ou là, je dois faire autre chose. Naam. Et fais des doigts et sois gentil avec elle. Essaye de faire épancher son cœur, bidna azzawajal. Peut-être que Allah Ta'ala te donnera, Inch'Allah Ta'ala, une issue. Demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il raffermisse son cœur et qu'il lui fasse mettre le sitar. Amin ya Rabbi Alamin. Tfadl al-Firdaus. Fika barakallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'en est-il d'une femme qui a été divorcée pendant ses menstrues? À quel moment doit-elle compter sa période de idda? Et a-t-elle le droit de refuser, si elle veut la reprendre, pour non-respect des règles et des droits qu'il doit envers elle? Je pense que la question est terminée, cher.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une femme qui a été divorcée pendant les menstrues, ce divorce est valable. Ce divorce est valable et il doit compter. Si c'est le premier, c'est le premier. Si c'est le second. Si c'est le troisième, troisième. À quel moment doit-elle compter sa période de idda? Naam. Maintenant, puisqu'une femme a été divorcée dans les menstrues, qu'est-ce qu'elle fait? Les menstrues, où elle est, qu'elle a, c'est-à-dire, elle ne les compte pas. Elle ne les compte pas. Ensuite, après 5 ou 6 jours, elle va être purifiée. Elle va prendre sa douche. Et après 20 jours ou je ne sais pas combien, 25 jours, elle va avoir les premières menstrues. Donc elle va compter que c'est les premières menstrues. Ensuite, elle se purifie, la douche, ensuite deuxième menstrue, ensuite troisième menstrue. Quand elle termine les 3 menstrues, à part celle qu'elle a aujourd'hui, dans ce cas, elle est divorcée définitivement. Dans ce cas, elle est divorcée définitivement. Et mieux encore, elle sera divorcée après avoir pris sa douche. Car s'étant purifiée des troisièmes menstrues, si elle n'a pas encore pris sa douche, elle n'est pas encore divorcée. Naam, elle n'est pas encore divorcée, sauf si quoi, elle fait exprès pour ne pas la prendre et l'heure de la prière va sortir. Taïb. On revient maintenant à la sœur qui a dit, et s'il veut la reprendre, naam, et que a-t-elle droit de refuser pour non-respect des règles? Non, s'il veut la reprendre, elle n'a pas le droit de se refuser. Pourquoi? Car étant en menstru, c'est toujours sa femme. Sauf bien sûr si c'est le troisième divorce. Dans ce cas, elle ne reste même pas avec lui dans la maison, car il ne peut pas la reprendre. Mais si c'est seulement le premier divorce ou le deuxième, étant dans les menstrues, elle n'a pas le droit de se refuser à lui, s'il veut l'enlacer, s'il veut l'embrasser, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours sa femme. Quelle est la preuve? La preuve que si jamais il meurt lui, alors qu'elle, elle est divorcée dans les menstrues, si jamais il meurt, elle va quoi? Elle va l'hériter. Subhanallah al-Azim. Elle va l'hériter s'il l'a fait reprise, bien sûr, s'il la reprend. Elle peut l'hériter alors qu'elle est dans les menstrues. C'est pour ça que qu'est-ce qu'elle peut faire tout en étant dans les menstrues? S'il veut la reprendre, naam. D'ailleurs, même si elle refuse, elle ne peut pas. C'est toujours sa femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut demander le divorce. Elle lui dit, divorce-moi. Ou bien, laisse-moi, je vais te donner la dot et on va se séparer définitivement. Naam. Car quoi? Car une femme, quand elle est dans sa période de viduité, elle est toujours la femme de son mari. Elle est toujours la femme de son mari. Si quoi? S'il la reprend. Naam. Mais maintenant, s'il l'a divorcée, elle est dans les menstrues, il lui dit pas je te reprends. Naam. Elle n'est pas encore sa femme. Je veux dire que elle n'est ni divorcée ni sa femme. Elle est dans la période des menstrues. Elle attend que la période se termine pour qu'elle prenne la douche et elle se sépare de lui. Mais s'il la reprend, il a le droit. Car c'est toujours sa femme. La preuve, s'il meurt, elle va l'hériter. Wallahu azza wa jal a'lam. Je vous donne, inshallah ta'ala, rendez-vous lundi dans la personnalité de la femme musulmane. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.